7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bon réveil, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 janvier, content de vous retrouver. Ça commence dans 5 jours et vous avez la parole. Le pari du grand débat titre aujourd'hui Le Parisien, aujourd'hui en France. Le flip du flop à la une de Libération. La boîte de Pandore, nous dit Le Figaro, et bien la grande concertation citoyenne. On y revient ce matin dans toutes nos éditions. Et puis à 8h15, réaction du président du Sénat, Gérard Larcher, qui sera au micro d'Audrey Crespo-Mara.
Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine.
Et vous, est-ce que vous avez arrêté de fumer? Si vous êtes fumeur ou si vous l'avez été? Oui, c'est pas facile. En tout cas, les ventes de paquets de cigarettes sont en baisse en France. Mais les Français fument-ils moins pour autant? Enquête dans le journal de 8h. Et puis à 9h ce matin, ouverture du procès à Bruxelles de Mehdi Nemmouch. Il est l'auteur présumé de l'attentat du musée juif de Bruxelles de 2014 qui avait fait 4 victimes. À 7h20, nous irons à Bruxelles justement pour tenter de cerner la personnalité du djihadiste. Et à 7h45, le témoignage fort de notre confrère Didier François, grand reporter à Europe 1, ex-otage en Syrie. Nemmouch, il l'a connu, il était son geôlier pendant 7 mois. Voilà pour le sommaire, on est ensemble jusqu'à 9h. Allez, bon réveil à tous, on vous accompagne, on est avec vous et ça commence maintenant.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 en ce jeudi 10 janvier. Il est 10h, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour Hélène Zélani, je n'ose plus vous dire des choses, il enregistre tout, Mathieu Noël.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Allez, l'actu à la une ce matin.
Impuissance 44, comme l'écrit l'équipe. Première défaite depuis 44 matchs pour le PSG en Coupe Nationale. Les stars de Paris éliminés de la Coupe de la Ligue par Guingamp. L'ex-boxeur Christophe Détinger a passé la nuit en prison. Il y restera jusqu'à son procès le 13 février prochain. Et puis les Gilets jaunes s'organisent. 19 associations déclarées dans toute la France, dont certaines ont des ambitions politiques pour les européennes. C'est une info Europe 1. Et on commence donc avec le foot. Une fois n'est pas coutume, cette grande claque pour le PSG. Hier soir au Parc, le quintuple tenant de la Coupe de la Ligue s'est fait sortir par Guingamp, lanterne rouge de la Ligue 1. Score final 2-1, début marqué par les Bretons sur pénalty. La défaite était improbable, imprévisible et pourtant, Cyril de la Monnerie, Guingamp l'a fait.
Un chiffre qui résume à lui tout seul l'immense exploit réalisé hier soir par Guingamp. 44. Paris restait sur 44 victoires consécutives en Coupe Nationale, soit 5 ans sans défaite. Et en plus, c'est le dernier de Ligue 1 qui a mis fin à cette incroyable série. Des Parisiens qui ont sans doute péché par orgueil, reconnaissait leur entraîneur Thomas Tuchel.
C'est très très dur parce qu'on a perdu une grande occasion de gagner un trophée. Nous avons joué avec trop de confiance aujourd'hui. Mais les circonstances sont un peu bizarres.
Bizarre ou plutôt improbable, la manière dont Guingamp a réussi à éliminer l'ogre parisien, admet l'entraîneur des Bretons, Jocelyn Gourvennec.
J'avais dit avant le match que pour qu'on passe, il fallait qu'il se passe quelque chose d'anormal et c'est ce qui s'est passé. J'ai jamais vécu de match avec 3 pénaltys pour la même équipe en une seule mi-temps, mais ça nous a permis de passer.
Et puisque le PSG est éliminé, Guingamp, mais aussi Strasbourg, Monaco et Bordeaux se frottent les mains. Ils savent qu'ils ont désormais une chance unique de remporter cette année la Coupe de la Ligue.
Cyril de la Morinerie, tirage au sort des demi-finales ce soir.
On repart les 7h02.
Dans l'actualité également ce matin, l'ex-boxeur Christophe Détinger qui a dormi en prison.
Et il va y rester jusqu'à son procès le 13 février. Hier soir, il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour les coups portés à 2 gendarmes mobiles lors de la dernière manifestation des Gilets jaunes à Paris. L'audience a été reportée à la demande de son avocate, mais il a tout de même eu le temps de donner quelques explications à son geste. Rémi Bostaron.
Je regrette mes actes. Quand je regarde les images, je ne suis pas fier de moi. Quand il prononce ces mots, Christophe Détinger a le visage marqué, les yeux cernés, visiblement rougi par les larmes. L'ancien boxeur, gabarit impressionnant et crâne rasé, tente d'expliquer d'une voix hésitante ses coups assénés aux gendarmes samedi dernier. Je les ai vus matraquer des gens. Je n'ai pas eu le contrôle, lâche-t-il. J'ai agi comme je l'aurais fait si j'avais vu une femme se faire agresser dans le métro. Et pourtant, ce jour-là, il l'affirme, il était venu manifester pacifiquement. D'ailleurs, ses avocats tiennent à dessiner le portrait d'un homme sans histoire. Un homme bien, dit l'un d'eux, un père de famille, fonctionnaire territorial, au casier judiciaire vierge, mais qui a donc été placé en détention provisoire afin d'éviter la réitération des faits et la soustraction à la justice. Explication donnée par le tribunal sous les cris d'une partie de la salle. Répression policière, honte sur vous, lance des proches de Christophe Détinger, tandis que l'un de ses avocats dénonce les pressions politiques qui pourraient avoir pesé, selon lui, sur cette décision.
Rémi Bostaron. Et puis le jugement est tombé contre 6 jeunes issus de l'ultra-droite droite qui avait participé à des violences lors des manifestations des Gilets jaunes à Paris, des peines plus légères que celles requises par le procureur. Elles vont du sursis jusqu'à 3 mois de prison.
On a beaucoup dit que les Gilets jaunes avaient du mal à structurer. Eh bien, ils sont en train d'y remédier.
Oui, selon les informations d'Europe 1, en tout, 19 associations ont été déclarées en préfecture dans toute la France depuis le début du mouvement le 17 novembre. Certaines ont des ambitions politiques pour les prochaines européennes. Vous avez mené l'enquête, Théo Manval.
De ces 19 associations, c'est celle nommée Gilets jaunes, le mouvement qui paraît la plus solidement organisée. Son fondateur, Aïk Chahinian, a déjà rassemblé 14 000 adhérents et une première base financière.
On a près de 85 000 euros déjà. On a mis une cotisation, elle est à 6,50. 6,50 fois 14 000 adhérents, ça fait quand même déjà une belle somme. Mais la campagne pour les élections européennes, c'est des sommes astronomiques. Il faudrait 800 000 euros, c'est rien que l'impression des bulletins de vote.
Inutile de dire que ça paraît inatteignable pour beaucoup d'autres de ces groupes implantés localement dans les Vosges, le Cantal ou Lyon. Lyon où Christophe Derriaz préside les Gilets jaunes modérés. Son deuxième casse-tête, trouver les 79 candidats nécessaires pour la liste.
79 personnes, c'est complexe puisqu'on a beaucoup de mal à se regrouper entre associations et le délai est très très court. Donc si les listes tombent alors que nous on n'a même pas commencé, qu'on n'a pas de financement, qu'on n'a rien, ça va être compliqué d'avoir une liste Gilets jaunes.
D'autant plus que le parcours ne s'arrête pas là. Une fois la liste constituée, pour pouvoir percevoir l'argent récolté, il faut avoir l'agrément de parti politique. Il est décerné par la Commission nationale des comptes de campagne qui nous indique qu'à ce stade, une seule association en a fait la demande.
Les informations de Théo Manval. L'un des grands temps forts de ce jeudi, ce sera l'ouverture du procès de Mehdi Nemmouche, le djihadiste français accusé de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Il avait tué 4 personnes en moins de 2 minutes.
Et on reviendra sur sa personnalité dans Europe 1 va plus loin avec Isabelle Aurier depuis Bruxelles. Et puis à 7h45, nous serons avec notre confrère Didier François. Mehdi Nemmouche était l'un de ses tortionnaires lorsqu'il était otage en Syrie.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec l'initiative de la ville de Carpentras qui a beaucoup de succès. Une bourse au permis de conduire. Bon réveil à tous.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani en cette période où le pouvoir d'achat est une priorité. La ville de Carpentras vient de lancer une idée qui a beaucoup de succès.
Oui, c'est une bourse au permis de conduire pour les 16-25 ans les plus modestes. On leur paye l'auto-école et en échange, ils donnent de leur temps pour la ville un système gagnant-gagnant, comme nous le raconte Nathalie Chevance.
À peine lancée et déjà victime de son succès, la bourse au permis de conduire attire des dizaines et des dizaines de jeunes, étudiants ou en recherche d'emploi, mais sans ressources suffisantes pour payer l'auto-école. La mairie s'en charge à hauteur de 950 euros maximum, le moyen de s'insérer dans la vie professionnelle. Serge Andrieux, maire d'hiver gauche de Carpentras.
On s'est aperçu qu'il y avait énormément de jeunes qui voulaient bien aller travailler, mais dans les villages à côté ou dans les communes à côté, c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas de permis. Et pour avoir le permis, il faut de l'argent. Et quand on ne travaille pas et qu'on cherche un emploi, ça devient difficile. Donc on veut bien les aider, mais c'est du donnant-donnant. Ils vont faire 70 heures au sein des services de la mairie. Nous, on leur offrira le permis.
Donner de son temps, 2 semaines de travail saisonnier dans les services de la ville, le prix à payer pour financer son permis, Océane, 18 ans, avec un CAP d'aide à domicile, a déposé un dossier de candidature.
Comme on met d'un côté, il faut que je rende l'appareil par mes propres moyens.
Et donc vous êtes prête à faire quoi ?
Tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'aide. S'il faut nettoyer les rues de Carpentras ou quoi que ce soit, ben je le ferai pour avoir le permis. C'est pouvoir avancer dans la vie, avoir un projet pour pouvoir travailler dans ma branche.
Et la mairie espère que d'autres communes limiteront pour faciliter la mobilité et l'accès à l'emploi des jeunes. Carpentras, Nathalie Chevance, Europe 1.
Une autre préoccupation importante par les temps qui courent, l'écologie et le tri des déchets.
Oui, ce matin, la secrétaire d'État à l'écologie Brune Poirson reçoit une dizaine d'entrepreneurs ou d'associations qui vont présenter des idées innovantes en matière de collecte de déchets. Un dossier sur lequel nous sommes vraiment en retard par rapport à nos voisins européens, l'or d'Autriche.
Aujourd'hui, on ne collecte seulement que 60% des bouteilles en plastique et 45% des canettes en métal. Le reste finit dans la nature et pollue notre environnement. Il faut collecter mieux et plus en généralisant les bonnes pratiques. À Lyon, par exemple, l'association Mouvement de Palier forme des ambassadeurs du tri qui viennent récupérer des piles et des ampoules dans votre immeuble ou sur votre lieu de travail. Clément Castelli, jeune entrepreneur, va lui installer à la fin du mois de janvier dans la ville de Nice un boîtier sur les bornes de tri dans la rue qui permettra à chacun de mettre les déchets dans la bonne poubelle en scannant le code-barre de l'emballage.
Il suffira de scanner le code-barre de la bouteille d'eau avant de la jeter dedans pour être récompensé avec un bon d'achat. La collecte en porte-à-porte des déchets coûte extrêmement cher. Dans les zones à faible densité, ce serait vraiment pas rentable d'envoyer un camion qui fait le tour de chaque maison. C'est très important de trouver des systèmes qui incitent les gens à se déplacer et qui les récompensent au passage.
C'est ce deux genres de solutions que le gouvernement veut promouvoir pour améliorer le tri chez soi, mais aussi lorsque l'on est à l'extérieur, dans des lieux qu'on ne connaît pas.
L'or d'Autriche, et puis on l'apprend à l'instant, cet incendie à Toulouse dans un immeuble, 19 blessés, dont deux en urgence absolue. Des détails, bien sûr, dans notre prochain journal à 7h30.
C'était le journal présenté par Hélène Zellani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain, Nikos.
Carole qui ne s'arrête jamais, elle sillonne la France et parfois elle s'arrête près de chez vous, elle vous donne la parole. Bonjour Carole, vous êtes où ce matin ?
Alors écoutez, Nico, Céline, chers auditeurs, je vais tenter de vous faire deviner. Je suis devant une épicerie qui vend du lemon curd, du beurre de cacahuète, de la marmite, et à la caisse, eh bien ça donne ça.
Large meat, pork pie, thank you, and a pasty, that's all I want, thank you.
Vous êtes en Angleterre, c'est ça ?
Non, pas du tout. Je suis bien en France, à Gouarec, dans les Côtes d'Armor. C'est un village de 900 habitants, dont une centaine d'Anglais qui se rongent les sangs actuellement à 2 mois du Brexit. La responsable de cette épicerie, par exemple, eh ben, ne sait toujours pas quel sera le prix de ses produits après le 19 mars.
Nous ne vendons que des produits anglais qui viennent d'Angleterre. Nous craignons que ce soit très mauvais pour les affaires s'il n'y a pas d'accord trouvé sur les échanges commerciaux. S'il y a un très mauvais accord, nous pourrions être taxés pour faire venir nos produits en France et ça deviendrait trop cher pour les clients.
D'autant que ces fameux clients anglais, eh bien, ils craignent de voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. Vous avez beaucoup de retraités hein, ici, dont les revenus proviennent tous d'Angleterre. C'est le cas de Leslie, arrivée il y a 4 ans avec son mari.
Je suis un peu inquiète, car la livre s'effondre. J'ai déjà dû perdre près de 30% de mon pouvoir d'achat, car tous mes revenus viennent d'Angleterre, de la location d'une maison et de la pension de retraite de mon mari. Et je crains que la situation n'empire quand le Brexit va arriver.
On entend l'inquiétude, Carole, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer concrètement.
Bah en fait, c'est bien ça hein, qui les inquiète, Nico, c'est de ne pas savoir.
L'incertitude.
C'est la même chose. Exactement, c'est la même chose par exemple pour la sécurité sociale. C'est la principale question qui est posée en ce moment à Marilyn. Elle préside une association qui aide les Anglais installés en Bretagne à comprendre les documents administratifs français.
Il y a beaucoup de personnes qui sont couvertes actuellement par les accords européens, c'est-à-dire quand ils ont cotisé en Grande-Bretagne, ils résident en France, ils ont droit à la carte vitale qui est en réalité réglée en Angleterre. C'est un accord entre les deux nations. Imaginez qu'il n'y a plus d'accord, comment ils pourraient se soigner ?
Voilà, alors
c'est
pour
concret,
ça que...
c'est une vraie question.
Exactement, et c'est pour ça que les demandes de cartes de séjour explosent en ce moment. Beaucoup souhaiteraient même obtenir la nationalité française. Mais pour ça, eh bien, il faut le parler couramment français, et c'est loin d'être toujours le cas.
Isn't it ? Carole Ferry à Gouarec, dans les Côtes d'Armor, c'est le village des irréductibles anglais. En tout cas, le dossier du Brexit nous intéresse, puisqu'il inquiète à la fois les Anglais, mais nous aussi, on continuera de suivre le dossier sur Europe 1. Merci Carole, vous êtes tous ce matin, c'est sur Europe 1, tous les jours à 7h10.
Europe 1.
Et il est 7h13, restez avec nous sur Europe 1. À suivre, Nicolas Aliagas.
Nicolas Barré, l'édito éco. Vous planchez sur quoi ce matin, Nicolas ? Votre micro est fermé.
Oui. Je vais vous parler d'immobilier avec, vous allez voir, de bonnes nouvelles.
Ça concerne les Anglais ou les Français ou tout le monde ?
Ah, plutôt les Français, donc quand
même. Très bien. À 7h20, Europe 1 va plus loin. Enquête sur la personnalité de Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, alors que s'ouvre aujourd'hui son procès. On en parle avec, tout à l'heure, notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Mais pas seulement, on vous dit tout juste après ça. Tout de suite.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La détention provisoire pour l'ex-boxeur Christophe Détinger. Son procès pour les violences commises sur deux gendarmes mobiles samedi dernier se tiendra finalement le 13 février prochain. Toujours aucune trace des deux membres d'équipage du Mirage 2000 qui a disparu des écrans radars hier en fin de matinée. Des débris ont été retrouvés dans le Jura. Une centaine de gendarmes participent en recherche. Football, le Paris Saint-Germain qui dit adieu à la Coupe de la Ligue après sa défaite face à Guingamp, 2-1. Monaco et Bordeaux sont qualifiés pour les demi-finales.
Europe 1. Il est 7h16, hein, c'est l'heure de l'édito Éco Nikos.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal des Échos. Nicolas, c'est historique. Jamais les taux de crédits immobiliers n'étaient tombés aussi bas. Expliquez-nous.
Eh bien, en effet, ce sont d'ailleurs les derniers chiffres de la Banque de France. En moyenne, le taux d'un crédit immobilier à 15 ans est tombé à 1,50% en fin d'année dernière. On était à 1,60 il y a un an. Et sur des grosses sommes, ça fait des différences importantes. On était même à 2,50% il y a 3 ans. Donc, vous voyez, c'est une bonne nouvelle, cette baisse.
Et on entend dire quand même que les taux d'intérêt vont remonter. Et ce sera bientôt moins intéressant d'emprunter. C'est le cas ou pas ?
Oui, c'est le cas, mais je vous dis pas de panique parce que les taux d'intérêt vont, c'est vrai, un peu remonter, mais ce sera très lent. Le crédit immobilier va rester très avantageux. Et d'ailleurs, on emprunte aujourd'hui à des taux qui sont inférieurs à l'inflation, ce qui veut dire que sur la durée du prêt, eh bien, on rembourse moins que ce qu'on a emprunté. C'est rare, c'est même assez extraordinaire. Les Français, d'ailleurs, l'ont très bien compris. Ils empruntent massivement. Le total des prêts immobiliers dans notre pays, figurez-vous, a dépassé les 1000 milliards d'euros. Ça fait à peu près la moitié de la dette de l'État. D'accord. Donc, c'est énorme.
On a compris, mais on n'emprunte pas cher, ok, mais l'immobilier est de plus en plus cher.
Alors là, c'est vrai, et c'est un énorme problème parce qu'on a cette déconnexion de plus en plus impressionnante entre l'évolution des revenus et ceux des prix d'immobilier depuis 2000 sur presque 20 ans. Eh bien, les prix des logements en France ont bondi de 70% en monnaie constante, c'est-à-dire en retirant l'inflation. Dans le même temps, toujours hors inflation, le revenu disponible par ménage n'a progressé que de 3%. Vous voyez cet écart.
Alors, si je traduis pour nos auditeurs, Nicolas Barré, le pouvoir d'achat réel des ménages n'a absolument pas suivi la flambée de l'immobilier. C'est une histoire de grand écart. En fait.
Exactement, et c'est préoccupant. C'est une des causes majeures de ce sentiment d'appauvrissement des classes moyennes. Avec le même niveau de revenus, le même niveau social qu'il y a 20 ans, eh bien, on se loge moins bien. On a perdu énormément en pouvoir d'achat immobilier. Au fond, quel que soit votre niveau social, vous êtes instituteur, vous êtes médecin, cadre supérieur, eh bien, on se loge moins facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On y consacre une plus grande part de revenus. La baisse des taux d'intérêt a longtemps masqué cela. Mais aujourd'hui, c'est clair, les revenus ne suivent pas. Dans des grandes villes comme Paris, par exemple, les prix s'emballent, plus 6% à Paris, plus 8% à Lyon, presque 6% aussi de hausse à Nantes, dans des villes comme ça. Donc jamais vous ne voyez les revenus augmenter à ce rythme. Et c'est peut-être le problème social numéro un, au fond, en France, aujourd'hui.
Et on parlait du Brexit tout à l'heure. Si jamais ça se fait, et si on voit des hommes d'affaires ou des entreprises anglaises venir chez nous, ça va aussi monter le prix immobilier.
On le voit déjà à Paris avec une très forte hausse des prix immobiliers dans les beaux quartiers.
Nicolas Barré, l'édito Écho tous les jours sur Europe 1 à 7h15.
Europe 1, Nico Saliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à Mehdi Nemmouche. Son procès s'ouvre à Bruxelles pour l'attentat du musée juif en 2014.
C'était le 24 mai 2014 précisément, et en 82 secondes, le terroriste a tué 4 personnes. Mehdi Nemmouche, citoyen français, né à Tourcoing, il est interpellé quelques jours plus tard à Marseille. Bonjour Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles.
Bonjour Nikos.
C'est vous qui allez suivre le procès pour Europe 1. Depuis 4 ans, Mehdi Nemmouche est resté muet sur les faits. Ses avocats affirment qu'il est innocent. Mais l'enquête le décrit comme un tueur froid, méthodique. Vous avez pu le voir récemment lors d'une audience préliminaire. Quelle impression vous a-t-il faite ?
Ben, il a une très forte présence, hein, une forme de charisme même. On dirait un militaire à 33 ans, il se tient très droit, alors pas très grand, plutôt athlétique malgré la détention. Et puis il s'exprime vraiment très bien, calmement, poliment, la voix claire. Il a argumenté sur des points de procédure. Sa maîtrise du droit et de son dossier ont d'ailleurs été soulignés par la présidente de la cour d'assises. Francis Vimin, son avocat français, aussi a été sidéré par ses capacités.
J'ai face à moi quelqu'un, un personnage très structuré intellectuellement, très cultivé. N'imaginez pas que c'est quelqu'un qui serait obsédé culturellement par des sujets religieux, islamiques. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est une culture au sens classique. On a eu des conversations sur l'architecture qui m'ont énormément intéressé. Étonné aussi, je ne m'attendais pas à ça.
Autre chose vous a surpris, c'est son comportement en détention. Il a l'air à l'aise en prison.
C'est quelqu'un qui, depuis 4 ans, vit dans des conditions de détention qui sont quand même extrêmes. Hein, c'est un régime d'isolement total assez spectaculaire. Quand vous le voyez, vous avez le sentiment que les murs de la prison n'ont pas d'existence. Il a une espèce de liberté dans ses propos, dans sa manière d'être. On a face à soi quelqu'un qui est doté d'une force physique très importante pour résister à l'environnement carcéral, mais également doté d'une force mentale très impressionnant. J'ai rarement vu cela chez un prisonnier.
En tout cas, les enquêteurs sont convaincus que Mehdi Nemmouche est un dangereux terroriste avec des nerfs d'acier.
Mais oui, parce que l'attaque à Bruxelles, elle a été planifiée et exécutée avec un sang-froid sans faille. Hein. Les quatre victimes ont été abattues très près. Les témoins directs ont cru voir un combattant professionnel d'un calme déconcertant, limite nonchalant, dit l'un d'eux. Et puis l'homme avait même une petite caméra accrochée à sa veste pour filmer tout ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que le soir même, dans la chambre qu'il louait, Medine Mouche vendait tranquillement des objets sur Internet. Il a rencontré les acheteurs les jours suivants et empoché 85 euros. Tous l'ont trouvé très calme. Et il reste détendu même quand les douaniers l'arrêtent à Marseille, 6 jours après. Il se moque d'eux quand il fouille ses bagages en leur lançant « Attention, il y a peut-être une bombe ».
Est-ce qu'on sait comment Nemouche s'est radicalisé, Isabelle
Henry ? Oui. En prison, avant 2012, hein, il y était pour des faits de droit commun. Un jour, il a demandé aux autres détenus s'il connaissait quelqu'un pour poser des bombes, parce que c'est ce qu'il comptait faire en sortant. Et puis après, eh bien, il est parti combattre en Syrie, plus d'un an. Alors, dans son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé 7 vidéos de revendications. La plus longue fait presque 1 minute. Les armes et la tenue du tueur y sont filmées. Une voix off cite l'État islamique en Irak et au Levant et annonce que ce n'est que le début d'une série d'attaques sur Bruxelles.
Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il parle et qu'il donne la version ?
Alors, ses avocats. Ouais, c'est ce qu'assurent ses avocats, mais il tient tête aux enquêteurs et aux juges depuis 4 ans. On ignore encore qui sont ses complices, ses commanditaires. Et il faut se souvenir de ce que disait un expert psychiatre. Déjà, quand il avait 20 ans, son commerce est agréable. Mais voilà un jeune homme que la police aura quelques difficultés à manipuler.
Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles avec la collaboration de Salomé Legrand du service Police-Justice d'Europe 1. En studio avec moi, Didier François, grand reporter de la rédaction d'Europe 1, ex-otage en Syrie. Cet homme, Medine Mouche, vous l'avez bien connu, Didier.
Ben oui, parce que c'était un de nos geôliers et un de nos tortionnaires pendant les 10 mois et demi que nous avons passé en Syrie comme otage.
Comme otage. Ce que vous avez entendu dans le reportage d'Isabelle Horry vous donne des éléments pour reconnaître la personnalité de votre tortionnaire ?
Ben oui, tout à fait. C'est un cas typique de sociopathe, vraiment, qui à la fois peut paraître à des moments très urbain. C'est un garçon malin, mais qui est aussi d'une extrême violence et d'une très grande dangerosité.
Didier François, on va en parler ensemble, si vous le voulez bien, 7h45. Sur notre antenne. C'était Europe 1 va plus loin, tous les matins à 7h20.
Europe 1, il est 7h23.
À suivre à 7h30 dans le journal, on reviendra sur cet incendie à Toulouse, un incendie d'un immeuble qui a fait 19 blessés, dont 2 en urgence absolue. Et dans quelques instants, dans quelques secondes, Anissé Mbida pour l'innovation du jour. On parle de quoi ce matin, Anissé ?
Oui, une innovation qui permettra d'avoir des prévisions météo encore plus précises. Pour vous dire, on pourra
des
avoir...
Des prévisions météo ?
Oui, encore plus précises. Et pour vous
plus
dire,
précises que Laurent Cabrol ?
Encore plus, parce que là, on pourra avoir des météos différentes, la météo, des prévisions à différents quartiers, différents endroits d'un même quartier.
Vous inquiétez pas. Ce que j'ai compris, c'est qu'on va battre Laurent Cabrol, c'est tout.
Exactement.
À tout de suite.
Pendant qu'il n'est pas là.
Il est 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nico Saliagas.
Vous vous réveillez tranquillement et vous vous dites comment est-ce que je m'habillais ce matin. Alors oui, Laurent Cabrol est là, il est avec nous d'ailleurs encore ce matin. Et il sera là jusqu'à 9h pour vous donner les prévisions météorologiques. Mais Anissé a trouvé peut-être une petite astuce pour avoir les prévisions encore plus précises. Utiliser les capteurs en fait, de son propre téléphone portable, c'est possible.
Oui, c'est possible. Je ne sais pas si vous le savez, hein, Nico et Céline, dans vos téléphones portable, il y a un baromètre et même dans tous ceux des téléphones portables, de ceux qui nous écoutent, hein, tous les téléphones portables qui sont vendus depuis 2014, il y a un baromètre.
Vous écoutez ça à la maison, chers auditeurs ? Vous avez un baromètre dans le téléphone.
Sauf que ce baromètre n'est pas utilisé pour donner la météo, mais pour détecter les changements d'altitude. Par exemple, pour vous dire, vous avez monté tant d'escaliers aujourd'hui. Eh bien, des ingénieurs d'IBM ont eu l'idée d'utiliser ces données, le baromètre de nos téléphones portables, mais aussi tous ceux qu'il y a dans les avions et aussi dans toutes les stations météo, ce qui va permettre de quadriller la Terre de façon beaucoup plus précise et donc d'avoir des prévisions météo encore plus fines.
Mais elle est de combien cette précision aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça dépend des modèles, mais en Europe, on est autour de 9 km. Aux États-Unis, on est autour de 13 km, tout simplement parce qu'il y a des tas d'endroits où on n'a pas de station météo.
D'accord.
Et bien, avec les téléphones portables et les avions, on pourra descendre à une précision de 3 km et donc prévoir une météo différente à différents endroits d'un même quartier et d'une
D'accord.
même ville.
C'est du sur-mesure. Alors, soyons concrets, ça va marcher comment ? Il faudra installer une application, j'imagine ?
Il faudra installer une application qui s'appelle l'application The Weather Channel. Alors, heureusement, ça restera une option. On pourra refuser d'envoyer ses coordonnées GPS et son baromètre. Parce qu'on le rappelle, il y a quand même beaucoup d'applications aujourd'hui qui en profitent pour nous piquer nos données personnelles et moucharder pour les publicités.
Laurent Cabrol, vous entendez ? Quand il va pleuvoir sur Toulouse, il va pleuvoir sur Toulouse.
Mais on le saura grâce à notre téléphone.
Il y a une grande constante en météo, c'est que plus on observe, mieux on prévoit. Et donc, plus on aura d'observations, pression atmosphérique par exemple, plus elles seront fines, et mieux la prévision sera donnée, avec beaucoup plus de précision et d'efficacité. Donc, tout cela est assez logique. La pression atmosphérique agit sur le vent. Le vent agit sur les températures, et donc d'une rue à l'autre, vous pouvez avoir une différence de temps, une différence de température, une différence de pression atmosphérique, et cela, ça sera déterminé par le téléphone portable.
D'accord.
On mettra tout ça dans un ordinateur immense. Alors là, il va falloir les données par milliards, et il va falloir ensuite en tirer des conclusions.
Merci Laurent Cabral. Et plus je regarde Agnès Mbida, plus je réalise que j'en sais encore moins. Merci beaucoup. C'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans une minute, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo justement avec vous Laurent Cabrol.
Et avec des prévisions justement basées aussi sur la pression atmosphérique. Elle est très élevée sur la France. Si vous avez un baromètre, mais alors celui-là mural, vous savez, les anciens baromètres. Vous
capotez, comme nos grands-mères.
Et vous voyez, s'il monte aussi descend. Et vous voyez qu'il est encore très haut. Il est sur beau temps. Mais ce qui ne veut pas dire beau temps en hiver, ce qui veut dire un temps calme et froid, et bien c'est le temps que nous aurons là aujourd'hui. Tout à l'heure, je détaillerai les quelques chutes de neige que nous avons dans les régions de l'Est, un peu comme hier, c'est-à-dire dans les mêmes endroits qu'hier, mais d'une manière générale, sur la partie ouest de la France, et même en région parisienne, les éclaircies seront là. Ce sont des éclaircies d'hier, hein, faut pas rêver. Les températures seront froides aujourd'hui, 0 à Langres, 2 à Nancy, 5 à Lille, 6 à Paris cet après-midi, 7 à La Rochelle et 10 à Marseille.
Le baromètre sur pied, Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre, Nico Saliagas.
À 7h40, Jean-Michel Apathy, on va parler de Carlos Ghosn. 7h43, Axel de Tarlé, on fera un point sur le chômage. C'est apparemment, ça n'est plus une priorité en France. Et à 7h45, un témoignage, celui de notre confrère, le grand porteur Didier François, ex-otage de Médine et Mouche en Syrie. Merci d'écouter Europe 1. Merci de nous faire confiance.
Nous sommes le jeudi 10 janvier. Très bon réveil à tous. Il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Le journal présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Et si les parents d'enfants violents étaient touchés au portefeuille? Une idée qui revient très souvent et qui cette fois pourrait être concrètement appliquée. Un groupe de travail doit remettre en milieu de semaine prochaine une liste de mesures à Jean-Michel Blanquer. L'idée, c'est que les établissements scolaires fassent remonter les dossiers à l'inspection académique qui serait ensuite chargée d'en informer la CAF. Une mesure qui engage les chefs d'établissement et pour le premier syndicat de la profession, la question de l'application d'une telle mesure est posée.
De quel comportement d'élève parle-t-on? Est-ce que c'est un comportement au sein de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement? Ça interroge parce que autant au sein de l'établissement, on peut imaginer effectivement qu'il y ait un repérage qui soit fait par l'établissement. Si c'est à l'extérieur, ça paraît déjà beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, est-ce qu'on doit passer par une sanction financière, en particulier si ça devait être au niveau des allocations familiales, qui sont a priori des aides sociales pour lesquelles on a du mal à imaginer un rapport direct entre un soutien financier à une famille qui éprouve des difficultés financières et le comportement d'un jeune, fut-il violent par ailleurs.
Philippe Vincent, secrétaire général du premier syndicat de chef d'établissement avec Jean-Jacques Herry. C'est une des infos de la nuit à Toulouse. Un violent incendie a fait 19 blessés. Deux personnes sont en urgence absolue. Un immeuble d'habitation vétuste a été ravagé par les flammes. Au total, plus de 70 personnes ont dû être évacuées. On ignore pour l'instant les raisons du sinistre.
Et deux mois après l'effondrement des immeubles à Marseille où 8 personnes ont perdu la vie, la Fondation Abbé Pierre se porte partie civile dans l'information judiciaire contre X qui a été ouverte.
Oui, et pour l'avocat Emmanuel Daoud, c'est un moyen de s'assurer qu'un tel drame ne se reproduira plus.
La Fondation Abbé Pierre a considéré qu'elle devait se constituer partie civile pour avoir accès au dossier. Nous ferons en sorte d'apporter notre contribution pour qu'il y ait la manifestation de la vérité et que l'ensemble des responsabilités puissent être examinées un jour par un tribunal pour que ce genre de drame ne puisse plus se reproduire.
L'avocat Emmanuel Daoud avec Maud Descamps pour Europe 1.
Christophe Détinger a passé sa première nuit en prison.
Détention provisoire pour le boxeur accusé de l'agression de deux gendarmes samedi dernier à Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Je regrette mes actes. Je ne suis pas fier de moi, a-t-il dit en sanglotant. Ses avocats ont sollicité un délai pour préparer sa défense. Procès programmé le 13 février. Christophe Détinger a été écroué donc en attendant. Et son avocat, Maître Hugues Vigier, estime qu'il est victime de pression politique.
Quand on ne comprend pas une décision, quand on ne la trouve pas juste,
On a forcément le sentiment dans ce type d'affaires que peut-être c'est la pression politique, c'est cette espèce d'injonction faite par le politique qui ferait mieux de respecter en permanence la séparation des pouvoirs, qui ne le fait que quand l'un des leurs est mis en examen en disant « je ne commande pas parce qu'il y a la justice qui doit passer » et qui quand par contre il veut clouer au pilori quelqu'un, demande exactement l'inverse en disant au juge en gros qu'il faut qu'il fasse son travail avec la plus grande fermeté, la plus grande sévérité. En somme, on ne respecte l'indépendance de la justice que quand ça arrange et sinon le pouvoir exécutif passe son temps à faire effectivement des injonctions au juge.
Maître Vigier au micro Europe 1 de Rémi Bostaron. Bordeaux, une ville où les manifestants sont chaque semaine plus nombreux en marge des Gilets jaunes ces derniers samedis. Les rassemblements ont à chaque fois dégénéré, beaucoup de violence et de casse. Le maire Alain Juppé approuve la double réponse du gouvernement, la fermeté face aux casseurs et l'organisation du grand débat.
Il y a une réponse sécuritaire et il faut une réponse sécuritaire. Quand on voit des gens piller des bureaux de poste, casser des magasins, on est devant des fous. Et donc il faut que l'ordre républicain soit maintenu. Mais en même temps, je vous rappelle que le gouvernement n'a pas fermé la porte, au contraire, à la concertation. Il faut aller sur les deux voies en même temps, l'ordre public et en même temps l'écoute, la compréhension, l'expression aussi libre que possible. La grande question est de savoir ce qu'il en sortira. Est-ce que les partenaires seront capables d'exprimer des revendications précises ? Je ne cache pas ma perplexité. Quand j'ai reçu une délégation de Gilets jaunes de 30 personnes il y a un mois, je ne sais pas très bien les conclusions que je pouvais en tirer parce qu'aucun n'était d'accord avec aucun. Il va falloir là aussi qu'on fasse émerger de vraies propositions.
Alain Juppé au micro de Stéphane Place pour Europe 1. Laurent Wauquiez dans Les Échos estime que le débat national pour répondre à la crise des Gilets jaunes doit être ouvert et que le gouvernement ne peut en verrouiller les thèmes. Il ne serait pas normal, dit-il, que les questions d'immigration et de communautarisme soient exclues du débat. Laurent Wauquiez qui a réaffirmé qu'il n'y aurait pas d'alliance avec Marine Le Pen tant qu'il serait à la tête des Républicains.
Europe 1, il est 7h34.
Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux membres d'équipage d'un avion de chasse disparu des écrans radars hier soir en fin de matinée.
Oui, l'appareil avait décollé de la base de Nancy-Auchet en Meurthe-et-Moselle. Des débris ont été retrouvés dans le Jura. Les deux militaires qui se trouvaient à bord n'ont toujours pas été retrouvés. Une centaine de gendarmes sont mobilisés pour les recherches. Écoutez le colonel Cyril Duvivier, porte-parole de l'armée de l'air.
Le profil de la mission, c'est un entraînement en basse altitude qui suit les mouvements du terrain, c'est donc prévu. Et donc, il est logique qu'il soit près du sol, parce que c'était la mission qui le voulait. Et donc, effectivement, dans ces conditions, près du sol, dans des mauvaises conditions météo, mais ça, on le sait, on le fait tout le temps, le moindre aléa peut s'avérer assez fatal, assez compliqué. À ce stade, l'équipage est porté disparu. Nous nous y accrochons à cet espoir de les retrouver. Et effectivement, l'espoir n'est pas énorme, mais il y en a encore un.
Un propos recueilli par Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Angèle était inconnue il y a encore un an du grand public. La chanteuse belge de 23 ans remplit aujourd'hui des zéniths et c'est déjà une petite star.
Oui, et elle fait partie des nommées pour les victoires de la musique 2019 dans deux catégories, album révélation et meilleur clip pour tout oublier en duo avec son frère le rappeur Romeo Elvis.
Ouais, c'est trop cool parce que pour tous les gens aussi qui ont bossé dur avec moi et notamment le clip, l'album c'est la consécration pour moi d'être nominée par ma tête, mon nom, la photo de moi là, ça me fait trop bizarre. D'avoir mon nom dans l'histoire des victoires, rien comme ça, ça me suffit largement. Il faudrait tout oublier. Bah, la récompense, c'est de pouvoir faire ce métier et de pouvoir le continuer, mais je dirais que c'est une sorte de petit coup de pouce quoi, en plus, une sorte de cadeau, de bonus, vachement cool. Mais là j'ai ton jouet,
ce bonheur. Et on adore Angèle sur Europe 1. Angèle avec Diane Chénouda. La cérémonie des victoires de la musique aura lieu le vendredi 8 février.
Merci beaucoup Céline Kallmann pour le journal. Et puis ça fait 3 ans aujourd'hui que nous avons perdu David Bowie. On essaiera d'écouter un peu de Bowie.
Ah ben le voilà.
Allez, tout à l'heure, avant 9h.
Europe 1.
Et il est 7h37.
À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy. Vous nous emmenez où ce matin, Jean-Michel ?
Oh, je vous amène aux Pays-Bas. Tiens, je vais vous parler d'un évadé fiscal nommé Carlos Ghosn, parce qu'on l'a retrouvé à Amsterdam.
Je pensais qu'il était au Japon.
Eh bien, lui, physiquement, il est au Japon, mais fiscalement, à titre personnel, Carlos Ghosn est à Amsterdam, et ça surprend un peu ce matin.
À tout de suite. Et puisqu'on parle de fiscalité, Axel de Tarlé, vous nous parlez de quoi ce matin ?
Alors, la France est le cancre de l'Europe en matière de chômage, et on va essayer de comprendre pourquoi.
Apathy, Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
C'est une information que nous révèle le journal Libération ce matin. Carlos Ghosn n'est plus résident fiscal français depuis 2012. C'est l'année où il a transféré, selon le journal, son patrimoine fiscal aux Pays-Bas.
Voilà, son patrimoine impersonnel pour ne pas payer l'ISF en France. Alors soyons précis sur la situation fiscale de Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Il a payé, il paye encore ses impôts en France, pour ce qui concerne son salaire de PDG de Renault, 7 millions par an. Mais en 2012, il a transféré son patrimoine personnel aux Pays-Bas et il est devenu résident fiscal aux Pays-Bas en 2012. Pourquoi les Pays-Bas ? Parce que Renault-Nissan, l'alliance Renault-Nissan, a son siège social à Amsterdam. Et donc, il a transféré ses biens là-bas. Comme ça, il ne paye plus depuis 2012 l'impôt sur la fortune en France et il ne le paye pas aux Pays-Bas parce qu'il n'y a pas d'ISF aux Pays-Bas. Donc, bravo Carlos. Alors, rien d'illégal, mais sur le plan symbolique, en pleine crise des Gilets jaunes, c'est évidemment énorme parce que les Gilets jaunes dénoncent l'égoïsme et le manque de solidarité des élites. Ben, en voilà un exemple. Les petits payent les impôts parce que les petits, ils ne vont pas se domicilier aux Pays-Bas pour payer leurs impôts, mais les gros, eux, ils s'échappent.
Donc c'est le symbole que vous soulignez.
Bien sûr, c'est assez terrible comme nouvelle, comme information. Alors, tous les patrons ne font pas ça, heureusement, mais chaque fois qu'il y en a un, bah, il faut quand même dire que ce n'est pas bien, ce manque de civisme fiscal. À propos de Carlos Ghosn, il faut poser d'autres questions. L'État est actionnaire de Renault à 15%. Donc, il y a, au conseil d'administration de Renault, des représentants de l'État. Est-ce qu'ils ont su, en 2012, ce que faisait Carlos Ghosn ? Est-ce qu'ils ont eu connaissance de sa situation fiscale ? C'est un petit monde, on en a dû parler. Est-ce qu'à ce moment-là, ils font remonter ou pas l'information au ministre de l'économie à partir de 2012, plusieurs de ceux-ci se sont succédés à Bercy. Et les ministres de l'économie, quand ils savent ça, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils essaient de ramener Carlos Ghosn à un sens civique plus important ? Ce serait intéressant de le savoir. Autre question qu'il faut poser ce matin. Carlos Ghosn a été incarcéré à Tokyo le 19 novembre. Et le 20 novembre, c'est le hasard, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est invité de la matinale de France Inter. Il est interrogé sur Carlos Ghosn et Libération donne la réponse de Bruno Le Maire ce matin sur France le 20 novembre. Il n'y a rien de particulier, dit Bruno Le Maire, à signaler sur le statut fiscal de Carlos Ghosn. Ben oui, il y a des choses particulières à signaler. Alors, soit Bruno Le Maire n'avait aucune information sur le statut fiscal de Carlos Ghosn, il raconte n'importe quoi au micro pour s'échapper de la question, c'est très possible. Soit il connaissait le statut fiscal personnel particulier de Carlos Ghosn et il fait un mensonge.
Oui, parce que voilà. C'est pas illégal. Donc, dans ces cas-là, il préfère éviter.
Voilà, c'est ça. Mais bon, ce serait intéressant que Bruno Le Maire le dise. Dernier point, les Gilets jaunes critiquent souvent la presse en disant « La presse nous ment, nous désinforme, elle est aux mains des milliardaires ». Eh bien là, c'est la presse qui révèle cette information. Donc ce matin, pour clouer le bec aux Gilets jaunes, on va dire « Bravo Libération
». Jean-Michel Apathy, sur Europe 1, c'est tous les jours à 7h40. Axel de Tarlé, je vous vois
réagir. Oui, non, parce que juste, on peut regretter le manque de civisme des plus fortunés, mais on peut aussi dire, Jean-Michel, que ça valide la thèse du gouvernement qui est de dire l'ISF, quoi qu'on en pense, on constate bien que ça fait fuir les plus fortunés. Et c'est vrai que Carlos Ghosn, légalement, à cause de l'ISF, a fait en sorte que son patrimoine ne reste pas en France, mais parte aux Pays-Bas.
Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. Manque de civisme et réflexion sur l'ISF.
Voilà.
Alors Axel de Tarlé, puisque la France est tout en bas du tableau en Europe en matière d'emploi, on peut dire que le chômage est devenu une exception française ?
Oui, alors vous savez, l'Europe, c'est comme à l'école. Il y a Eurostat, c'est l'INSEE européenne, qui publie régulièrement des bulletins de notes. Alors hier, Eurostat a publié le bulletin de notes sur le chômage. Et donc, sur les 28 pays de l'Union européenne, c'est comme dans une classe, eh bien la France, sur 28, arrive en 24e position. Vous voyez, c'est pas brillant. Mmh. Alors, le premier de la classe, le meilleur, c'est la République tchèque, taux de chômage 1,9, suivi par l'Allemagne, 3,3, les Pays-Bas sont 3e. Alors, ensuite, tout le monde y passe, et puis on arrive au cancre. Donc, la France, 24e, avec un taux de chômage de 8,9. Et ensuite, il y a Chypre, Italie, Espagne et Grèce. Vous voyez, nous sommes dans les quatre cancres de la classe.
D'accord. Alors, on ne parle plus du chômage pour autant. On en parle un peu moins. Aujourd'hui, la priorité, c'est le pouvoir d'achat dans la sémantique politique et sociale.
Tout à fait. C'est ce que confirment les enquêtes d'opinion. Le chômage, bien que la France reste une exception, n'arrive plus qu'en troisième place en termes de priorité. Troisième derrière le pouvoir d'achat, priorité numéro un, suivi par la lutte contre le terrorisme. De fait, vous avez raison, les Gilets jaunes ne parlent pas du chômage. D'ailleurs, la plupart ont un emploi. En fait, Nico, si la question du chômage a ainsi disparu des écrans radars, c'est malheureux à dire, c'est parce qu'on ne peut pas mieux faire. Les économistes vous expliquent qu'en France, on a atteint le chômage dit structurel.
Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Alors, le chômage structurel, c'est-à-dire que les offres d'emploi existent, mais qu'elles ne trouvent pas preneur. De fait, vous avez 80% des chefs d'entreprise qui disent éprouver des difficultés à embaucher. Pourquoi ? Eh bien, soit par manque de qualification des candidats, ou soit par manque d'intérêt. Souvent on propose des petits jobs mal payés, parfois le week-end, et donc ces jobs n'intéressent personne. Donc vous voyez, on serait au maximum de l'emploi, on ne pourrait pas descendre plus bas que ce taux de chômage.
Non mais c'est terrible de se résigner à avoir 5 millions de chômeurs, on ne peut pas faire mieux dans notre pays ?
Alors justement, c'est l'objectif du gouvernement qui dit vouloir déverrouiller le marché de l'emploi. Alors ça passe par la formation, on en parle beaucoup justement pour monter en qualification, et ça passe par l'incitation avec la méthode du bâton et de la carotte. Alors le bâton, ce sont les nouvelles règles plus strictes de l'assurance chômage. Et puis la carotte, c'est la prime d'activité. C'est-à-dire que l'État vous donne de l'argent si vous acceptez un emploi peu ou mal payé. Vous voyez, l'objectif, c'est bien de casser ce chômage de masse qu'on traîne en France depuis des décennies.
Le Zoom Echo a été présenté par Axel de Tarlet.
Europe 1.
Il est 7h46, Nico Saliagas à suivre.
Dans un instant, un témoignage fort, celui de notre confrère, grand reporter ici à la rédaction d'Europe 1, Didier François. Otage pendant plus de 10 mois en Syrie entre 2013 et 2014. Mehdi Nemmouche, dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, était son tortionnaire, son geôlier. Avec Didier François, on va essayer de cerner la personnalité du djihadiste. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h48, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Violent incendie dans le quartier de Mathiabo à Toulouse en plein milieu de la nuit. Bilan provisoire, 2 blessés en urgence absolue et 17 autres personnes également blessées. Christophe Détinger, placé en détention provisoire dans l'attente de son procès renvoyé au 13 février. Le boxeur comparaissait devant le tribunal de Paris pour violence volontaire contre les forces de l'ordre. Et puis, coup dur pour le Paris Saint-Germain, éliminé de la Coupe de la Ligue en quart de finale par Guingamp de Buzyn au Parc des Princes. Les Parisiens enregistrent leur première défaite de la saison sur le plan national. Monaco s'est en revanche qualifié pour les demi-finales en battant Rennes.
Europe 1. Nico Saliagas, alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, c'était le 24 mai 2014, vous recevez ce matin notre confrère, journaliste à Europe 1, Didier François.
Bonjour Didier François.
Bonjour Nico.
Vous avez été plus de 10 mois, de juin 2013 au 28 avril 2014, on s'en souvient, on était heureux pour vous, lorsque vous avez été libéré, l'un des 4 journalistes français retenus en otage en Syrie. Vous connaissez parfaitement la personnalité de Mehdi Nemmouche, car il a été votre geôlier. Est-ce que vous êtes certain que c'était lui ? Est-ce que c'est l'homme dont on parle aujourd'hui à la une de la presse ?
Oui, ça ne fait strictement aucun doute. C'est l'homme qui aujourd'hui est jugé à Bruxelles pour un meurtre antisémite, parce qu'il a assassiné brutalement 4 personnes dans le milieu juif de la capitale belge.
Tout à l'heure, Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, nous racontait la personnalité de Nemmouche, un homme brutal, violent. Ça correspond au tortionnaire que vous avez connu ?
Oui, tout à fait, puisque il faisait partie des gardes donc de cette police islamique de Daesh, donc au début du califat, et il faisait partie des gens qui dans les prisons secrètes de Daesh, donc, par exemple, on est était très longuement détenu dans les sous-sols d'un hôpital pédiatrique qui donc dans les étages soignait les enfants et en dessous avait des cellules, des salles de torture, des salles d'interrogatoire et Nemmouche faisait partie de ces gardes francophones puisqu'ils étaient tout un paquet dont les gens qui ont fait les terroristes qui ont fait les attentats du Bataclan à Paris ils faisaient partie des gens qui torturaient les Syriens, les Irakiens, les prisonniers qui gardaient, qui les amenaient aux toilettes, les battaient sur le chemin aller sur le chemin retour. On l'a entendu pendant des nuits entières crier en français sur des Irakiens ou des Syriens qui eux parlaient que l'arabe et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Il y avait un déchaînement de violence absolument incroyable. C'est pour ça que quand j'entends dire par les avocats etc, c'est quelqu'un qui peut être très poli, très urbain etc. Certainement, c'est quelqu'un de malin. Mais je n'oublierai jamais sa capacité de violence et sa capacité de danger.
Vous parlez des autres, quel était son mode opératoire, vous concernant, Didier François ?
Alors moi personnellement, honnêtement, on n'était pas très bien traité, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, par exemple, Mehdi Nemmouche en particulier avait un petit jeu qu'il aimait beaucoup, c'était s'amuser à nous écraser les ongles avec une pince en acier. Donc autant vous dire que c'est voilà, pendant les déplacements sur les toilettes de nous taser avec du matériel électrique, nous électrocuter, donc voilà, ou de nous frapper. Moi, il m'avait frappé 40 fois au même endroit sur le haut du crâne avec une matraque plombée. Enfin, c'est le genre de mais ce qui n'était rien à côté de ce qui se passait pour les prisonniers syriens qui eux étaient vraiment torturés. Ils étaient enchaînés, souvent mis à l'intérieur d'un pneu et menottés autour de barres de fer, puis frappés sur la plante des pieds avec du fil électrique gainés, enfin voilà, ils étaient enfin égorgés. C'est un des grands jeux qu'ils avaient, c'était de torturer les gens devant la porte de notre cellule. Et le matin, quand ils nous amenaient aux toilettes, il nous arrivait d'avoir des cadavres égorgés devant la porte, de marcher dans leur sang et d'aller jusqu'aux toilettes. C'est ça aussi Mehdi Nemmouche. Donc moi, je veux bien qu'on me le présente uniquement comme quelqu'un de formidable, de grand, de puissant et de stable.
Et de maîtriser,
mais enfin, une maîtrise de la violence de cette nature est quand même relativement dangereuse.
Est-ce que vous parliez avec lui ?
Oui, absolument. Alors, dans un premier temps, on a eu une phase assez dure où il était uniquement dans la violence et dans donc la phase du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Puis au mois d'octobre, il y a une espèce de bascule. Alors d'abord, il y a eu des ordres de la part de ses chefs, puisqu'on avait une valeur que n'avaient pas visiblement les détenus syriens ou locaux. Et donc lui-même, d'ailleurs, à un moment, nous le disait. Il dit « Vraiment, t'es une grosse merde, j'adorerais te buter, mais mes chefs veulent pas que je le fasse. » Donc il était obligé de se contrôler. Et ce qu'il faisait d'ailleurs, donc ce qui prouve quand même qu'il est quand même assez discipliné quand il veut. Donc on a vu cette situation étrange où il a commencé à venir faire des quiz. Alors il a quelques passions. Alors là, l'emprisonnement, parce que c'est sa vie, il a passé une grande partie de sa vie en prison.
C'est un délinquant en fait.
Oui, à l'origine c'est un délinquant qui s'est radicalisé. Alors lui-même se définit de manière assez réaliste comme un petit délinquant passé dans le nettoyage ethnique religieux. Donc voilà, pour vous dire, il passait ses journées à se vanter de rentrer dans les familles de villages chiites, de violer les femmes devant leurs maris, d'assassiner leurs enfants et ensuite de vider leur frigidaire et de manger ce qu'il y avait à l'intérieur, avant de déménager les meubles dans un camion. C'est quand même, le genre de... Et puis après, il repartait en chantonnant ou en sifflotant du Aznavour. C'est une personnalité quand même un peu particulière.
Vous parlez rarement de vous, même dans la rédaction. Non mais c'est la réalité. On ne vous a jamais entendu vous plaindre dans la rédaction. Et d'ailleurs, vos confrères ici l'ont respecté.
Et j'ai eu, heureusement, tout le monde ici a été absolument formidable pendant et la détention et le retour d'Arnaud Lagardère jusqu'à tous mes camarades de plateau. Ça a été effectivement un grand bonheur de vous retrouver.
Et votre rire nous fait du bien. Dernière question, rapidement, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?
Mais en fait, que les gens réalisent à quel point ces gens sont dangereux. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est pas simplement... De toute manière, il ira en prison pour ce qu'il a fait. Voilà, c'est cet assassinat antisémite est clair, mais il reste encore des gens comme lui, certains de ses camarades en Syrie, au moment où les Américains veulent dégager un peu trop rapidement de la Syrie. Rappelons quand même qu'il y a encore les frères Klein qui sont dans ces dernières poches tenues par l'État islamique dans le nord de la Syrie, du côté d'Ajim, et qu'il y a trois Français, par exemple, dont ceux qui ont revendiqué... Alors, les frères Klein, ce sont ceux qui ont revendiqué le Bataclan, mais il y a encore, par exemple, des gens comme Thomas Barouin, qui sont aujourd'hui prisonniers des Kurdes, qui ont revendiqué l'assassinat des policiers à Magnanville, qui sont aujourd'hui détenus chez les Kurdes. Le jour, qu'est-ce qui va se passer? On va les relâcher dans la nature et dans la pampa, ils vont revenir faire les attentats ici. Donc il y a quand même aussi une certaine responsabilité à avoir, et bien se souvenir qu'on a des ennemis déclarés, puisque eux-mêmes le font, et qu'il ne faut pas non plus être toujours des bisounours.
On aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Didier François, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. On continue, ma chère Céline Dacosta.
Oui, il est 7h54. À suivre dans le journal de 8h, Nikos.
Et les ventes de paquets de cigarettes qui s'effondrent. Et puis dans un instant, la petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas. Bonne journée à tous. On vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 7h57. C'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas, ça s'appelle Vous savez quoi, cette petite histoire. Et vous allez nous parler d'une chorale qui ne connaît pas de frontières.
Imaginez, face à vous sur la scène, il y a 19 nationalités différentes. Il y a Fatima qui arrive d'Irak. Il y a Bridget qui vient du Cambodge. Niawal qui a fui le Soudan du Sud. Et il faut les voir, les amis, avec leurs belles tuniques blanches, des étoles de toutes les couleurs. Elles sont de toutes les couleurs, des gamines, des ados, des jeunes femmes, déracinées, qui démarrent une nouvelle vie dans l'état du Maine, tout au nord-est des États-Unis. C'est là-bas que Con Fulham, un Américain qui n'aime pas trop les murs, a eu l'idée de cette chorale. Il a une formule assez juste, il dit « Quand on arrive dans un nouveau pays, la première chose que l'on perd, c'est sa voix ». Et c'est pour ça qu'il a créé cette famille il y a une quinzaine d'années. Famille, le mot revient souvent dans la bouche de ces jeunes chanteuses. Elles ne sont pas là pour en faire un métier. Non, elles sont là pour se retrouver, se reconstruire solidaires. Alors, je sais, l'actualité est un peu tendue ces derniers jours, mais justement, je vous propose un petit moment de grâce. Ça dure une quinzaine de secondes, cette fameuse chorale, avec une gamine réfugiée haute comme trois pommes, une chanson de Leonard Cohen. Et vous savez quoi? Je vais me taire maintenant. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major.
Alléluia.
La chorale s'appelle Pitchintus, c'est de l'amérindien, ça signifie « lorsqu'elle chante, sa voix porte loin ».
Quand une grande famille chante d'une seule voix, c'est juste l'humain qui compte. La petite histoire de Jean-Philippe Ballas, c'est tous les jours, juste avant 8h sur Europe 1.
C'est magnifique. À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabron, Nikos.
On a un cabrolomètre, non?
Avec le découpage que je vous propose maintenant. Si vous habitez l'Alsace, le Dijonais, le Mâconnais, la Franche-Comté, le Rhône, les Monts du Forêt, l'Ardèche ou le Piémont Pyrénéen, c'est une journée avec des averses de pluie ou des giboulées de neige à basse altitude, donc une journée très désagréable dans l'ensemble. Dans la vallée de la Loire, la Bretagne, la région parisienne, le centre, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Limousin, le Béarn, la Champagne et les Ardennes, vous aurez là dans cette partie de la France des éclaircies d'hiver et ce sera pas trop trop mauvais. Le vent sera toujours aussi violent en Méditerranée et entre Calais et Le Havre, un petit régime d'averse. Il fera 2 à Nancy aujourd'hui, 3 degrés à Limoges, 4 à Lyon, 5 à Lille, 6 à Paris, 7 à Caen, 8 à Nantes, température sous abri bien sûr. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Excellente matinée à tous à l'écoute d'Europe 1 en ce jeudi 10 janvier. Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Audrey Crespo-Mara recevra le président du Sénat, Gérard Larcher, à 8h15. Mais tout de suite, le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Paquet neutre, prix en hausse, ça marche. Les ventes de cigarettes ont baissé de plus de 9% l'année dernière. Reportage auprès de ceux qui ont arrêté de fumer dès le début de ce journal. Le français Mehdi Nemmouche est jugé à partir d'aujourd'hui à Bruxelles pour la tuerie du musée juif de la ville en 2014. 4 personnes avaient été froidement assassinées. Les familles des victimes attendent beaucoup de ce procès. Emmanuel Macron réussira-t-il à faire du grand débat national un vrai moment de participation populaire? Le président apporte les dernières touches à la lettre qu'il écrit aux Français. Et puis, Nikos, nous fêterons un anniversaire à la fin de cette édition, celui d'un confrère à nous. Tintin, ah, à 90 ans aujourd'hui.
Europe 1.
Et pas une ride.
40 milliards de cigarettes en moins. Voilà ce que signifie une baisse des ventes de 9% l'année dernière. La raison, les politiques publiques de hausse des prix fonctionnent et les comportements évoluent, comme le démontre ce reportage de Jean-Jacques Herry auprès de ceux qui ont récemment arrêté de fumer.
Fumeuse depuis l'adolescence, Isabelle n'aurait jamais pensé réussir à monter un jour 6 étages sans être essoufflée. Pourtant, ce n'est pas la perspective d'un exploit sportif qui l'a fait écraser sa dernière cigarette en novembre dernier. Non, ce qui a guidé son choix, c'est de voir son compte en banque de moins en moins garni à la fin du mois.
Du coup, j'achetais un peu moins à manger pour pouvoir m'acheter mes cigarettes. Sur les conseils du tabacologue, j'ai ouvert une tirelire et tous les jours, je mets l'équivalent de ce que je fumais en cigarette dans la tirelire. Presque 400 euros en 40 jours pour me faire des petits plaisirs au quotidien.
Et puis, il n'y a pas que le prix du tabac. Aujourd'hui, arrêter la cigarette est quasiment devenu un phénomène de mode. Clotilde, dynamique architecte de 35 ans, l'observe tous les jours. Dans sa bande d'amis, elle était la dernière à continuer à fumer. Alors un matin, il y a 4 mois, elle aussi a fini par se coller un patch.
J'étais entourée d'énormément de fumeurs et du fait qu'ils soient devenus parents, les amies filles, elles se sont toutes arrêtées de fumer les unes derrière les autres. Et même chez les hommes, je dois avouer que j'ai constaté un arrêt aussi de la cigarette.
Clotilde espère que cette deuxième tentative de sevrage sera la bonne pour enfin ne plus avoir besoin, à 35 ans, de continuer à cacher qu'elle fume à ses parents.
Reportage signé Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Nous l'avons appris ce matin, un incendie à Toulouse a ravagé cette nuit un immeuble d'habitation vétuste. 19 personnes ont été blessées, dont 2 sont en urgence absolue.
On l'a dit, le procès de Mehdi Nemmouche commence aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, ce djihadiste français est jugé pour la tuerie du musée juif de la capitale belge en mai 2014. Il est accusé d'avoir assassiné 4 personnes de sang-froid. Parmi les victimes, un couple de touristes israéliens. Leur famille attend beaucoup des 7 semaines d'audience qui débutent aujourd'hui. Écoutez leur avocat, maître Christian Dalne.
La maman attend que M. Nemmouche et M. Benrer disent qu'ils ont commis d'abord les faits, les motivations éventuelles de leurs agissements et puis de savoir qui sont leurs complices. Et donc on essaye d'avoir des réponses puisque M. Nemmouche s'est tu dans toutes les langues depuis le début de l'instruction et donc on souhaiterait avoir maintenant enfin les explications.
Je pense qu'il va avoir du mal à se taire et je crois qu'il connaît extrêmement bien son dossier. Je pense qu'il a très bien préparé sa défense et je pense qu'on aura sans doute certaines explications.
Maître Christian Dalne au micro d'Isabelle Horry.
Et pour le président de la République, l'année 2019 commence aussi difficilement qu'elle s'était terminée en 2018.
Avec la même bande-son, en tout cas. Emmanuel Macron a visité hier la maison du handball à Créteil. Les huées, les slogans, Macron démission.
et 150 protestataires tenus à bonne distance du président de la République. Alors peut-être ne les a-t-il pas entendus, mais le chef de l'État n'ignore pas le contexte politique défavorable dans lequel s'est enfoncé son quinquennat. Pour se relancer, il mise sur le fameux grand débat national. Jean-Rémy Baudeau, vous suivez l'Élysée pour Europe 1 et vous avez obtenu des indiscrétions. Emmanuel Macron s'est confié auprès de quelques-uns de ses ministres et vous en savez plus sur le contenu de la lettre qu'il s'apprête à envoyer aux Français ?
Oui, David, le président l'a répété devant les ministres hier. Ce grand débat sera le temps 2 du quinquennat et pour relancer son mandat, Emmanuel Macron veut être le plus précis possible. Dans la lettre aux Français qui sera diffusée avant lundi, le chef de l'État va préciser les contours du débat, de l'exercice, énumérer les invariantes, explique un ministre. Concrètement, pas question de revenir par exemple sur la neutralité carbone en 2050, mais il sera possible de débattre de la méthode et du rythme. C'est ce qu'ont compris les membres du gouvernement hier. Pour écrire sa lettre, le président va par ailleurs s'inspirer des remontées de terrain. Il a demandé à des maires, à des associations de lui faire une synthèse des cahiers de doléances déjà ouverts sur le territoire. On y parle justice sociale, territoriale ou fiscale. Il y a une part d'inconnu, confesse un ministre de premier plan, mais il est normal de prendre en compte l'avis de la population, précise-t-il, bien conscient que c'est la seule manière de sortir de la crise actuelle.
Merci à vous Jean-Rémy Baudeau. Énumérer les invariantes, on reconnaît bien là le phrasé d'Emmanuel Macron. Et en attendant ce grand débat qui commencera mardi prochain, le chef de l'État rencontre ce matin à l'Élysée les représentants des cultes en présence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Au menu de cette réunion, le projet de réforme de la loi de 1905 qui régit la laïcité en France.
David Doucan, est-ce que vous avez des nouvelles du boxeur de gendarmes dont on parle beaucoup ces derniers jours?
Eh oui, Christophe Détinger a été placé en détention provisoire. L'ancien champion de France lourd léger restera donc en prison jusqu'à son procès prévu le 13 février prochain.
Europe 1.
À suivre dans le journal, une conséquence du Brexit. Les citoyens britanniques demandent en masse l'obtention d'un passeport irlandais. On vous dit tout juste après ça.
Il est 8h06, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan et l'horizon qui se dégage, qui ne se dégage pas pour Theresa May, puisque son accord de Brexit risque bien de ne pas être adopté par les parlementaires britanniques.
Oui, cela paraît en effet mal engagé. Le vote prévu le 15 janvier prochain est plus incertain que jamais. Et les citoyens britanniques sont de plus en plus nombreux à vouloir garder la citoyenneté européenne malgré le Brexit. Et pour cela, ils ont trouvé une solution, demander l'obtention d'un passeport irlandais. 200 000 requêtes en 2018. Les services de l'ambassade d'Irlande à Londres sont saturés. Reportage de notre correspondante Anaïs Cordoba.
Ce bureau des passeports de l'ambassade d'Irlande à Londres ne désemplit plus. Sous couvert d'anonymat, un fonctionnaire raconte le rythme de travail effréné depuis le Brexit. Jusqu'à 6500 dépôts de candidatures en ligne certains jours. La plupart des aspirants, comme James et Henry, sont poussés par le désir de rester européen, que ce soit par intérêt ou idéologie.
C'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si on part, si on part pas? Personne ne sait, donc c'est un filet de sécurité. Moi, je veux pouvoir continuer à voyager librement en Europe.
Moi, j'aime l'idée de faire partie de l'Union européenne, de ce groupe de nations ensemble par des liens commerciaux et diplomatiques. Donc c'est utile, mais j'apprécie aussi le fait de rester un citoyen européen.
Un grand-parent irlandais suffit à un Britannique pour obtenir le passeport. C'est le cas de Patrick, qui a toujours été fier de ses origines, mais comme beaucoup d'autres, n'avait pas senti le besoin de demander la nationalité.
Sans le Brexit, je ne pense pas que je serais là. J'aurais laissé traîner cette démarche. Ça a renforcé mon sentiment d'appartenance à l'Irlande. Quand on m'a confirmé mon identité irlandais, j'étais très fier. J'ai bu un verre de Guinness pour fêter ça.
Et le flot des candidats pourrait continuer de grossir. 10% des Britanniques seraient éligibles à un passeport irlandais. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis, c'est un coup de tonnerre en République démocratique du Congo, puisque c'est l'opposant Félix Tshisekedi, pardonnez-moi, qui a été proclamé vainqueur de la présidentielle par la commission électorale. Le ministère des Affaires étrangères français vient à l'instant d'affirmer que ces résultats n'étaient à ses yeux pas conformes à la réalité du scrutin.
Et dans deux minutes, Vincent Herouet reviendra sur cette élection au Congo. Il nous expliquera en détail ce qui est en train de se passer. Alors, vous nous l'aviez promis en ouverture de ce journal, David Doucan, on va souffler les bougies, les 90 bougies d'un confrère.
Eh oui, le reporter le plus célèbre du monde, Tintin, a 90 ans aujourd'hui. Sa houppette était dessinée pour la première fois par Hergé le 10 janvier 1929. La série se vend toujours autant, comme si Tintin, cela se transmettait de génération en génération. Reportage dans une librairie du 14e arrondissement de Paris, signé Pierre Herbulot.
Par ordre d'apparition dans la librairie, Sylviane, la grand-mère, Émilie, sa fille et la petite dernière, Alia. Trois générations, mais un même réflexe, filer vers le présentoir des albums de Tintin Et là, chacune a ses préférences.
Tintin et l'île, l'île mystérieuse.
Tintin au pays des soviétins.
Rakam le Rouge.
Tintin et Rakam, il y avait le trésor, non ? De Rakam le Rouge.
Sylviane a le droit de se tromper sur le titre. Elle a lu les BD il y a plus de 70 ans.
Moi, je lisais surtout, c'était pour le côté aventure. Ça nous permettait de voir ce qui se passait ailleurs. Ça nous faisait voyager un petit peu. J'ai l'impression que ça nous faisait un peu rêver, quoi.
Malgré la différence d'âge, sa petite fille est sur la même longueur d'onde.
J'ai été toute seule vers les livres. Ça m'a beaucoup attirée. Et j'ai lu, oui, presque tous les albums qu'il y a chez mes grands-parents.
Dans la BD, Tintin traverse le monde. Dans la vraie vie, il traverse les âges. Et ça n'étonne pas Émilie.
Non, parce que c'est intemporel. C'est des histoires qui continuent de mon époque, de l'époque de mes parents, de l'époque de mes enfants maintenant.
Et peut-être de leurs enfants à eux, et ainsi de suite. Dans 30 ans, l'œuvre d'Hergé passera dans le domaine public. D'éventuelles suites pourront donc voir le jour.
Pierre Herbulot pour Europe 1.
Et puis on a vu que des planches ont été vendues près de 400 000 euros il y a quelques mois.
Mais c'était en juin dernier.
Absolument.
Incroyable mais vrai, le Paris Saint-Germain a été éliminé hier soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Battu 2-1 à domicile par Guingamp, la défense parisienne a concédé 3 pénaltys en 30 minutes. Pour info, Paris était invaincu dans cette compétition depuis novembre 2012.
Même les géants peuvent trembler à un moment ou à un autre. C'était le journal présenté par David Doucan.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, appelez-nous au 3921 ou continuez à nous envoyer vos messages via Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h11, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Mon cher Vincent, l'alternance se poursuit au Congo. Le vainqueur de la présidentielle a été proclamé cette nuit. Et c'est une surprise, c'est un opposant qui l'emporte. Mais c'est pas le bon, apparemment.
Oui, au Congo, tout est démesuré. La taille, la violence, la richesse du sous-sol, la misère au-dessus et la fraude électorale. C'est l'Afrique à la puissance 2 et des Africains réduits à l'impuissance 2. Les 10 millions d'habitants de Kinshasa, et moi, ont passé une nuit blanche, j'étais chez eux. Ce qui s'est déroulé, c'est un fric-frac d'un genre tout à fait inédit. La présidentielle s'est tenue avec 2 ans de retard et ça fait 12 jours qu'on attendait le dénouement. Et le coup de théâtre a été à la hauteur, un coup d'État tout en douceur. La commission électorale a proclamé la victoire de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le dauphin initialement choisi par le président sortant, Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter. C'est un opposant, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, opposant toujours à Mobutu. Et il va succéder à Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, président assassiné. La politique est une boutique au Congo, tenue de père en fils. Alors on pourrait se dire, miracle ! Au Congo, l'alternance est un concept neuf en 2019. La démocratie dans le plus grand des pays francophones. Qui l'aurait cru ? Sauf que l'opposant n'est pas celui qui a remporté l'élection. Mmh. Et s'il a été choisi, c'est que cet opposant ne s'oppose plus.
Vous voulez dire quoi ? Qu'on a bourré les urnes ?
Mais bien sûr, le 30 décembre, la conférence des évêques avait déployé 40 000 observateurs dans les bureaux de vote. Et ce qu'elle a vu, c'est un raz-de-marée en faveur d'un autre candidat. Et il y a toutes les raisons de la croire, parce que les protestants ont vu la même chose, et puis aussi les laïcs. Et le président élu s'appelle Martin Fayulu. Mmh. Depuis 12 jours, tout le monde le sait, mais se tait. Il faut bien respecter la commission électorale, ou alors c'est pas la peine de jouer les démocrates. Le problème de Martin Fayulu, ce sont ses parrains, deux oligarques en exil. Le premier s'appelle Jean-Pierre Bamba. Il vient de passer 10 ans derrière les barreaux de la Cour pénale internationale avant d'être innocenté. Et puis l'autre, c'est Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la riche province du Katanga. Et il a lâché Kabila et lui aussi vit désormais dans son jet. Aux yeux de Kabila, ce sont deux traîtres, deux ennemis irréductibles.
Il fallait leur barrer la route.
Alors, Kabila avait choisi un type sûr de son ethnie, du village de sa propre mère, pour lui assurer l'impunité. Mais celui-là, il a fait un score misérable. Alors que Félix Tshisekedi, il a un nom crédible. Il a des partisans, notamment dans la capitale. Et depuis 3 jours surtout, il a donné tous les gages, promettant la réconciliation nationale, dénonçant d'avance les chasses aux sorcières, vantant les immenses qualités du président sortant, auquel il propose d'ailleurs de confier des tâches d'ambassadeur. Alors pendant 5 ans, Joseph Kabila sera sénateur à vie. Il continuera à régner sur son clan tout en jouissant en retraité précoce de sa petite épargne, des mines de diamants, des puits de pétrole et assez de terrain pour construire 3 ou 4 villes. En 2024, Joseph Kabila aura 53 ans et on l'imagine déjà revenir au pouvoir comme on rentre de vacances.
Et puis on apprend il y a un instant que la France estime que les résultats de cette élection au Congo ne sont pas conformes et pour le Quai d'Orsay, c'est donc, comme vous l'avez dit Martin, Fayulu qui serait le vainqueur.
Vincent Herouet sur Europe 1, l'actualité internationale.
Bonne journée Nikos.
C'est présenté par Vincent tous les jours. Bonne journée à vous.
Europe 1, il est 8h14.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Vous recevez qui ce matin, André ?
Eh bien écoutez, il est juste derrière Emmanuel Macron, à la fois pour lui dire quand il fait des erreurs et dans l'ordre protocolaire de la République. Gérard Larcher, président du Sénat, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h17, Nikos Aliagas.
Le président du Sénat, Gérard Larcher, dans nos studios, ici, sur Europe 1. Il est l'invité d'Audrey Crespo-Mara. L'interview commence maintenant.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Président du Sénat, ce qui signifie qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est vous qui devrez remplacer le chef de l'État. À force d'entendre les Gilets jaunes réclamer la démission d'Emmanuel Macron, vous vous êtes préparé à cette éventualité ?
Non, pas du tout.
Même en vous rasant le matin ?
Non, même en me rasant le matin, non, je suis à la fois attentif à ce qui se dit et depuis un certain nombre de semaines, sur des revendications, sur le, en fait, le refus du consentement à l'impôt, sur le sentiment d'abandon des citoyens d'une partie du territoire. Je le disais depuis des mois.
Ça fait des mois que vous alertez le président de la République.
Et j'avais alerté le président de la République. Je ne sentais plus une partie du pays. Et en même temps, les violences, pour certaines, sont inacceptables. Elles mettent en cause l'état de droit. Et face à cela, il faut que nous réagissions collectivement en responsabilité.
Alors voilà bientôt un mois et demi qu'on assiste chaque samedi à de graves débordements de violence. Est-ce qu'on peut encore mettre ça sur le compte de la colère ?
La colère, elle existe. Elle n'a pas disparu. Mais rien ne légitime la violence.
Pensez-vous
je pense
qu'on
à ce mot de Victor Hugo, répété un jour par François Mitterrand. Souvenez-vous, la foule, souvent la foule trahit le peuple. Et cette violence, elle est peut-être en train de trahir un certain nombre de revendications légitimes. La violence, elle est inacceptable.
Pensez-vous qu'on a affaire à une volonté délibérée de déstabiliser l'État ?
De la part de certains, c'est évident. Et l'État doit réagir. Et une démocratie doit réagir. Et l'État de droit, c'est la première des réponses.
Le président de la République, vous disiez il y a un instant, je lui ai dit depuis des mois qu'il y a un vrai problème dans le pays. Vous l'avez mis en garde, vous le verrez encore lundi. Est-ce qu'il admet qu'il a eu tort de ne pas vous écouter ?
Nous le verrons lundi, je ne cherche pas à savoir si j'ai eu raison.
Non mais quel est l'état de vos échanges ?
Il faut qu'il écoute le pays.
Est-ce qu'il l'écoute ?
Il faut qu'il l'entende le pays. Il faut qu'il apporte les réponses, pas simplement pour faire plaisir au pays. Les réformes, il faut les faire. Mais il faut cesser avec cette verticalité de la décision. Le laminage des corps intermédiaires se révèle aujourd'hui avec des conséquences parfois incalculables.
Il n'y a aucune évolution. Vous trouvez qu'il n'y a aucune évolution dans la verticalité ?
On va voir. Le président, la semaine prochaine, va retrouver avec les maires. Je souhaite qu'il les retrouve avec l'ensemble des corps intermédiaires. Ce sera un test.
Avant de parler des maires, Emmanuel Macron donc a déjà débloqué 10 milliards. Il propose maintenant un grand débat national. Qui va piloter le débat ? Le Premier ministre prétend que le départ de Chantal Jouanneau n'est qu'une péripétie.
Le grand débat, ça peut être le pire ou le meilleur. Et moi, je préfère que ce soit le meilleur. Le départ de Chantal Jouanneau, ce n'est pas une péripétie. Est-ce qu'on veut un débat organisé ? Est-ce qu'on veut un débat où on s'interdit a priori un certain nombre de sujets ? Qu'est-ce qu'on veut faire derrière le débat ? Comment on fait pour qu'il ne soit pas confisqué par des lobbies ou des groupes de pression ? On a vu le résultat de la plateforme du Conseil économique, social et environnemental.
L'abrogation du mariage pour tous était la revendication numéro une.
Oui, en fait, quand on regarde les cahiers qui sont remis par les maires euros, on voit que le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat.
Mais est-ce qu'il y a besoin d'un débat pour savoir ça ?
Le second sujet, c'est la fracture territoriale.
Mais ça, on le sait déjà. Les maires le savent déjà. Il y a besoin d'un débat pour ça ?
Je pense que le président s'est engagé sur un débat. Aujourd'hui, ce débat, il faut qu'il ait lieu.
Sans tête.
Mais qu'il faut qu'il ait lieu
avec cette commission sans tête.
De manière responsable et en vérité.
Avec cette commission qui est sans tête aujourd'hui ?
C'est Chantal extrêmement Jouanneau. Difficile. Je crois que la Commission nationale du débat public est en train de tourner la page.
Je connais bien
Chantal Jouanneau, elle a été sénatrice. Je connais son esprit d'indépendance. C'était une garantie d'avoir la Commission nationale du débat public.
Elle va se retirer,
voilà,
vous pensez, cette commission ?
Je regrette qu'elle n'ait pas été en mesure d'assurer la présidence.
Donc vous pensez que cette commission ne peut plus assurer, ne peut plus piloter ce débat aujourd'hui ?
c'est à la commission de le dire de manière plénière, mais une commission sans la présidente pour la présider, c'est quand même un peu compliqué pour un débat de cette importance.
Gérard Larcher, Emmanuel Macron commence donc sa tournée des maires de France mardi. C'est vous qui lui avez suggéré cette idée ?
Je lui avais évoqué en décembre la nécessité de renouer avec l'ensemble des corps intermédiaires, premier rang desquels les maires. Le président n'était pas venu au congrès des maires. Il avait reçu un certain nombre de maires, ça n'est pas pareil.
Il s'est engagé à aller au congrès. Hein.
Qu'est-ce qui tient dans le pays aujourd'hui ? Les 550 000 élus locaux. C'est d'ailleurs vers eux que spontanément, chacun se tourne quand tout va mal. Et souvenez-vous, il y a 4 ans, drame des attentats. Drame des attentats, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Bruxelles. Aussi, un autre attentat, d'autres crimes. Vers qui se tournaient les citoyens ? Au lendemain du Bataclan, vers les maires, vers leurs conseils municipaux. Le maire, c'est une référence. La commune, c'est la proximité. Je pense que c'est à partir de la proximité qu'on peut retisser du lien dans ce pays.
Mais on sait qu'il y a des mois de relations très tendues avec le président. Certains maires disent d'ailleurs qu'ils n'organiseront pas le débat national. La vengeance est un plat qui se mange froid ?
Non, pas du tout. Vous savez, la commune, c'est une petite république dans la grande. Et mes collègues maires, parce que j'ai été longtemps maire, aujourd'hui sont profondément, pour l'essentiel d'entre eux, des républicains attachés à la République. C'est pas à eux de porter le débat. Je sais que nombre d'entre eux seront des facilitateurs, mais ça ne peut pas eux qui animent. C'est au gouvernement de décider de la manière dont il entend conduire le débat.
Mais...
Et puis les élus auront des propositions à faire. N'oublions pas, maire, département, région, ça fait partie des structures qui tiennent dans notre pays.
La cassure entre Emmanuel Macron et les Français et la cassure entre Emmanuel Macron et les élus sont intimement liées, selon vous.
Oui. Vous savez, 550 000 élus locaux, c'est le reflet des citoyens. J'étais, il y a deux jours, en Haute-Marne. Je parlais avec la présidente des maires, commune de 4 000 habitants. J'étais dans une commune de moins de 800 habitants, croyez-moi, les élus et le conseil municipal, ça représente réellement les citoyens. On n'a pas voulu les écouter. On a même dit du président du Sénat qu'il défendait la corporation des maires. Non, en fait, je défends, oui, la corporation de la République, de ceux qui croient dans la République.
Gérard Larcher, le président rencontre de graves difficultés. Ça devrait renforcer l'opposition et pourtant, le chef de votre parti, Laurent Wauquiez, est toujours au plus bas dans les sondages. Comment vous l'expliquez ?
D'abord, les difficultés, j'ai envie que mon pays s'en sorte. Et mon pays, c'est la chose qui compte pour moi.
Mais il y a votre famille politique
aussi. De même que la démocratie.
Aussi.
De la démocratie et la démocratie représentative, je voudrais simplement le dire d'un mot.
Représentative,
oui,
et pas directe.
Mais elle peut exister dans les formes prévues par la Constitution. Moi, j'ai présidé l'amicale des sénateurs gaullistes. Le référendum, pour moi, ça a du sens. Il existe dans la Constitution. On peut le faire évoluer dans la Constitution. Mais revenons. On
ne
va pas se mentir.
Wauquiez,
on va pas se mentir.
Je vais
répondre directement à votre question. LR vit encore un moment difficile. On est parmi du printemps 2017. Et pourtant, je crois indispensable d'occuper un espace politique qui se situe entre Emmanuel Macron et la droite de la droite et l'extrême droite. Voilà pourquoi moi, je n'abandonne pas. Je le fais avec mes idées.
Alain Juppé abandonne quand il me quitte le parti et qu'il dénonce la dérive républicaine.
Moi, je reste dans le parti. C'est une attitude différente. Je pense qu'avec mes idées, certaines ne sont pas très loin des choix d'Alain Juppé. D'autres sont un peu différentes. Quand je vois partir Mariani et d'autres, je me dis c'est plutôt bien. Ça éclaircit les perspectives. Mais je n'abandonne pas. Je ne suis pas toujours en accord avec le président du parti. J'ai aussi des accords. Il est légitime. Et je n'ai pas du tout envie de quitter le navire parce que nous sommes dans la tempête.
Merci Gérard Larcher.
Le président du Sénat était interviewé par Audrey Crespo-Mara. C'est l'interview politique tous les jours à 8h15 sur
Europe 1. Il est 8h25.
David Abiker arrive pour la revue de presse. Il y aura aussi Nicolas Canteloup pour la revue de presse. À tout de suite.
Dans un instant, la revue de presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Monsieur Cabrol, il y a un peu plus de lumière aujourd'hui. Hein.
Il y a un petit peu plus de lumière, oui. On appelle cela la luminosité ambiante, puisque ça ne veut pas dire qu'il y a du soleil, mais enfin, oui. C'est plus clair, comme sur la vallée de la Loire, la Bretagne, la région parisienne, le centre, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Limousin, le Béarn, la Champagne, les Ardennes. Autant de régions, ce sera, ma foi, dans l'ensemble, assez folichon, avec des éclaircies d'hiver. Sur le bassin méditerranéen, toujours ce satané vent, Mistral et Tramontane, on n'en sort dort pas, bon sang de bonsoir. Ça fait depuis Noël qu'il y a ce vent, et il va encore rester là. Enfin, sur le Piémont pyrénéen, comme sur l'Alsace, le Dijonais, le Mâconnais, la Franche-Comté, le Rhône, les Monts du Forêt et l'Ardèche, là ce sont des giboulées de neige pour certains d'entre nous, ou des giboulées ou des averses de pluie pour les autres, giboulées de neige à partir de 300-400 mètres. Quelques températures, je vais les détailler quand même un petit peu parce qu'elles sont importantes. Sous abri, avec le vent, couvrez-vous mes amis, parce qu'avec le vent c'est terrible. Hein. Il fait moins 3 degrés à Langogne, il fera moins 3 degrés à Langogne cet après-midi, c'est en Lozère. 0 à Langres et au Buisson, 1 à Clermont-Ferrand, 2 à Nancy, Colmar, 3 degrés à Bourges et Nevers, 4 à Lyon, 5 à Lille, 6 à Paris, 7 à La Rochelle, 8 à Nantes, 10 à Marseille et 13 degrés à Nice. Vous voyez qu'il va falloir mettre son petit pull et même plus s'il faut. En ce qui concerne la journée de demain, un petit mot pour vous dire que sur la moitié nord, nous aurons de la pluie et sur la moitié sud, des éclaircies et toujours, devinez quoi, en Méditerranée, le vent.
Voilà. Le vent.
Le vent, toujours lui. Allez.
C'est le Mistral, c'est lequel?
Il y a le Mistral et Tramontagne, les deux.
Ah ouais. Merci.
Ah ouais, ouais, pour le prix d'un. Allez,
tout à l'heure. À tout à l'heure et pas un coup de vent.
Oui, juste avant 9h. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Eh bien, Nicolas Canteloup arrive avec la revue de presse, mais sans évidemment saluer dans un premier temps David Abiker, qui est déjà dans le studio pour la revue de presse. À tout de suite.
Nous sommes le jeudi 10 janvier, l'actualité à 8h30 avec Nikos Aliagas.
Coup d'envoi mardi prochain pour le grand débat national. Il sera lancé par Emmanuel Macron depuis un village de l'Eure, Grand Bourte-Lourde. Certains habitants sont déjà amers car ils ne verront pas le président écouter.
Pour l'instant, il va voir les élus là.
Ce qu'il va dire, est-ce que ça va être concret, ce qu'il va le faire directement ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air quoi.
Je pense que c'est une manière de gagner du temps. Il va falloir qu'il change quand même sa politique quoi. Je pense qu'il est en train de mettre le feu aux poudres.
Propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois et avant l'ouverture du grand débat, Emmanuel Macron doit adresser une lettre aux Français qui sera prête d'ici la fin de la semaine. Le djihadiste français Mehdi Nemmouche devant les assises de Bruxelles à partir d'aujourd'hui. Il est jugé pour la tuerie du musée juif qui avait fait 4 morts en mai 2014. L'ex-boxeur Christophe Détinger, toujours en détention provisoire, il y restera jusqu'à son procès le 13 février prochain pour les violences commises sur 2 gendarmes mobiles. Incendie dans le centre de Toulouse, dans le quartier de la gare Mathiabo. L'immeuble de 4 étages s'est en partie effondré. Il y a 19 blessés, dont 2 en urgence absolue. Toujours aucune trace des 2 membres d'équipage du Mirage 2000 qui a disparu des écrans en radar. Hier, en fin de matinée, des débris ont été retrouvés dans le Jura. Une centaine de gendarmes participent aux recherches. Manifestation de VTC ce matin, porte-maillot à Paris. Ils sont près d'une centaine à bloquer la circulation, notamment pour demander l'instauration d'un salaire minimum. 4,50 euros de l'heure, c'est inacceptable, estime-t-il. Et puis un mot de football, le Paris Saint-Germain dit adieu à la Coupe de la Ligue après sa défaite hier face à Guingamp, 2-1. À noter les 3 pénaltys sifflés en faveur des Bretons, tous en seconde période. L'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel, ne s'en remet pas.
C'est très très dur parce qu'on a perdu une grande occasion de gagner un trophée. Et ça c'est super dur. Nous avons joué avec trop de confiance aujourd'hui. Mais les circonstances sont un peu bizarres. Ils sont dans notre surface 3 fois et l'arbitre siffle 3 fois pénalty pour 3 touches. C'est bizarre.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain avec Cyril de la Morinerie, Monaco et Bordeaux sont qualifiés pour les demi-finales. Tirage au sort ce soir.
Europe 1. Et Nikos Aliagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Alors ce matin, en lisant la presse, il y a une expression qui a fait tilt. Halte au docteur Tampi. Qu'est-ce que c'est que le docteur Tampi?
Expliquez-nous.
Le docteur Tampi, vous savez qui c'est? C'est celui qui dit « Le grand débat, ça va servir à rien ». Le docteur Tampi, c'est celui qui dit « On est un pays foutu ». Le docteur Tampi, c'est encore celui qui estime que la France est ingouvernable, c'est le bordel. Eh bien, dans Libération, Laurent Geoffrin dit « Halte au docteur Tampi », qui annonce l'échec automatique du grand débat. Voilà ce qu'il dit. C'est une discussion large, ouverte, franche. Vaut mieux une discussion comme ça qu'une émeute minoritaire. Au moins, avec ce grand débat, on cherche une issue. Et puis dans un autre journal, là encore, on voit s'allumer une petite lueur d'optimisme et de volontarisme. Alors elles sont rares, je les saisis au passage. Pour Nicolas Bétou, dans L'Opinion, le grand débat, c'est l'occasion en or de faire entendre la voix de l'entreprise et des entrepreneurs. C'est le secteur privé qui a les réponses. Sur le logement, sur la croissance, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie aussi. Patron, dites-le et participez au grand débat. Alors ce matin, Nikos, on ne verra pas la vie en jaune, gilet jaune. Ouais. On ne la verra pas non plus en bleu, CRS ou policier. Mais on verra la vie en mieux. Et même si ça ne se dit pas, allez, merde au docteur Tampi.
Eh bien voilà, vous le disiez, les entrepreneurs ont des propositions pour sortir de la crise des gilets jaunes.
Et ils n'attendent pas le lancement du fameux grand débat national. Logement, un plan choc à 9 milliards, c'est le titre de l'Opinion. 9 milliards, c'est presque autant que ce que le président a mis le mois dernier sur la table. Action le logement, c'est l'ex-1% logement. Et le MEDEF annonce aujourd'hui un vaste plan pour le logement des salariés modestes. D'où viendra l'argent ? Ben, on empruntera sur les marchés financiers qui peuvent consentir des taux très bas. Pour l'Opinion, c'est une réponse à la colère des gilets jaunes parce que le logement est justement à la croisée de leurs revendications. Le transport, le pouvoir d'achat, l'énergie... Action Logement veut que ce plan d'investissement concerne aussi l'isolation des habitations. Ça concerne aussi l'emploi, car l'organisme veut encourager les aides à la mobilité. Bref, le logement, ça peut être une réponse. Ces 9 milliards financés via l'endettement privé et les entreprises, c'est à la fois une réponse, effectivement, et une contribution au fameux grand débat.
Autre contribution ce matin, dans la presse, dans les échos, sous la plume d'un prix Nobel.
Là encore, halte au docteur Tampi, vive le volontarisme. Joseph Stiglitz, prix Nobel américain d'économie en 2001, s'intéresse au cas français. À nos élites dépassées et déconsidérées, à nos Français en colère, voilà ce qu'il dit. Vous avez le choix, vous les Français. Soit vous laissez un environnement dévasté à la génération future, à vos enfants, soit vous lui laissez des dettes. Eh bien, à avoir le choix, quitte à avoir le choix, choisissez les dettes en investissant. En investissant dans le Green New Deal, ce qu'il appelle la relance de l'investissement en faveur de la décarbonation et des emplois du futur, les emplois verts. S'endetter pour mieux se loger, on en parlait à l'instant, ou s'endetter pour habiter une planète plus saine, c'est un peu la même logique, c'est voir sur le long terme. Surtout lorsqu'on lit ce matin Le Monde, qui consacre une pleine page à la disparition de la faune française. 25% des espèces sont menacées de disparition dans l'Hexagone. Exemple avec le vison d'Europe. Le macaremoine, c'est un oiseau, la bécassine de marais, le gypette barbu, la rainette de gaucher, ces petites bêtes, il n'y en aura bientôt plus. C'est le constat de l'édition 2018 des chiffres clés de la biodiversité qui viennent d'être publiés par le Commissariat général au développement durable. Sur la biodiversité ce matin, on lira aussi le télégramme qui annonce l'ouverture de l'école EHEA, l'école des hautes études apicoles. Arnaud Montebourg, chantre du Made in France et ministre, ex-ministre du redressement productif, lance lundi matin cette formation apicole et sa marque Bleu, Blanc, Ruche. Une façon de contribuer à la disparition des... de lutter contre la disparition des abeilles et de ne pas accepter le fatalisme des fameux docteurs Tampi. Alors pour finir, toujours dans le télégramme, à la une de nombreux titres ce matin... Également un journaliste de presse écrite. Malgré ses 90 ans, il bosse toujours au journal Le Petit 20e en Belgique. Toujours positif, jamais pessimiste. C'est Tintin. Et le télégramme fait le portrait d'Olivier Briguet, 41 ans, enseignant, qui s'est mis au breton à 20 ans et qui est devenu l'un des traducteurs de référence de Tintin en breton. En breton, l'île Noire devient... Sus l'Ilner, vous excusez mon accent. Hein. Le secret de la licorne se dit la cuterie de la licorne. Le trésor de Rackham le Rouge se traduit par la guénochée de Rackham le Rouge. Depuis qu'il a traduit Tintin en breton, Olivier n'a plus arrêté. Alors pourquoi il fait ça, Olivier ? Tout simplement pour transmettre un patrimoine linguistique à ses enfants. Une langue qui ne veut pas disparaître, le breton. Et comme Tintin, Olivier, c'est le contraire d'un docteur Tampi.
Merci pour la revue de presse, mon cher David Abiker, tous les jours sur Europe 1.
Et Nikos, oui. Comment on traduit en grec Tintin et les Picaros ou les bijoux de la Castafiore
Takrisafikats Castafioras.
Ah, pas mal.
Ça vous plaît
Europe 1.
Tintin. Tintin, on ne dit pas Tintin.
Tintin. Il est 8h37.
Eh ben lui, c'est le Tintin de l'humour. Nicolas Canteloup arrive. 100 000 loups.
Mais... Avec Julie.
Évidemment, je parlais, mais oui. Aucune comparaison possible.
Ben non.
Julie et Nicolas Canteloup, la revue de presse, jusqu'à présent.
Il est 8h39.
Il est là, Canteloup, la revue de presse, avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio de Ray Crespo-Mara et son invité, Gérard Rocher.
Et oui, Ce matin, cher Julie, je reçois le président du Sénat, Gérard Larcher. Gérard Larcher, est-ce que vous pensez que...
Ah, il faut des maires, il faut écouter les maires, c'est une urgence.
Attendez, je n'ai pas encore posé ma question. Est-ce que vous pensez que...
Les maires, il faut écouter les maires. Emmanuel Macron n'écoute pas les maires, je lui ai pourtant dit, écoute ton maire, écoute des conseils des grands-mères. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raison, c'est pas le problème, ou si c'est Emmanuel Macron qui est tort, mais il faut des maires.
Oui, d'accord, nous avons compris. Mais est-ce que vous pensez...
Bon, pour le grand débat, c'est les maires qui peuvent prendre la colère des hommes, c'est pas l'homme qui prend le maire, c'est le maire qui prend l'homme. Ah. Ta-ta-ta.
Oh, d'accord, il est en boucle, on va vous laisser. À vous, Julie.
Merci à tous les deux.
Allez, maire.
Allez, c'est à vous, Nico. Ce matin, vous receviez Didier François, qui est encore avec vous, hein, je crois.
Oui, tout à fait, ma chère Julie. Je suis avec Didier François, qui est grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonjour, Didier. Vous étiez l'otage de Mehdine Mouche, qui est jugé ce matin. On parle d'un homme brutal, violent. C'est étonnant pour un tortionnaire, ça correspond à l'image de l'homme que vous avez connu. C'est un petit peu la base du truc, oui. Il était, je peux dire qu'il était violent. Il criait sur les Syriens, je me souviens, sur les Irakiens. Il nous cassait les ongles à la pince. Il m'a frappé avec une matraque plombée. Il torturait les Syriens en les ligotant avec des fils électriques dans des pneus de camion. Il égorgeait des détenus juste devant nos cellules. Oui, oui. Donc on peut parler d'un délinquant, en fait. Un peu, oui, à minima, quoi. On parle quand même d'un homme qui se vantait de violer les femmes des Syriens devant leur mari, et ensuite de partir en mangeant tout ce qu'il y avait dans le frigo. Ah, quand même, donc il vidait le frigo, il lui arrivait peut-être même de voler des yaourts. On peut quand même le qualifier de chapardeur. Il y avait part d'ombre chez cet homme, en tout cas, c'est bon, on l'a compris, Didier. C'était bien de vous retrouver, Didier, ce matin. Oh, ouais. Oui, c'est vrai, ça a été un soulagement de revenir après toutes ces tortures. Oui, et votre rire nous fait du bien. C'est bon d'avoir ri avec vous ce matin. On a passé un bon moment. Merci, Didier François. Allez, on va parler d'actu. L'actu surround, Dolby Digital, ce matin. C'est bien sûr le grand débat national. Alors, est-il déjà compromis? On rappelle que Chantal Jouanneau a jeté l'éponge après la polémique sur son salaire. Bon, elle reste présidente de la commission et elle garde les sous, mais nous avons... Excusez-moi, bonjour.
Ah tiens, bonjour François Fillon. Bah, ça faisait longtemps, hein? Longtemps qu'on vous a pas vu, vous.
Oui, bonjour, je vous entendais. Oui. Vous dites que Chantal Jouanneau ne va pas piloter le débat, mais qu'elle garde le pognon,
oui,
c'est
enfin,
ça?
Oui, en quelque sorte, elle garde son salaire, oui. Oui.
Oh. Une femme qui ne travaille pas, qui ramasse des sous quand même, je suis amoureux. Chantal, rejoins-moi dans la Sarthe. Vous savez, j'aime ma femme, mais ma femme, je veux que ce soit Chantal Jouanneau désormais.
Bon, merci François Fillon, merci d'être passé. Oh, il y a Tiamo ou Umberto Tozzi qui chante pour vous, voyez. Alain Juppé a annoncé que dans le cadre du grand débat national, des cahiers de doléances avaient été ouverts dans la mairie de Bordeaux. Bonjour Monsieur Juppé.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à votre sympathique équipe.
Toujours guillemets-vous, hein?
Ouais, oui, écoutez, l'année commence bien, ouais. Vous avez vu, j'ai quitté les Républicains, enfin, une bonne résolution, enfin je suis plus obligé de supporter Laurent Wauquiez, ni Eric Ciotti d'ailleurs, ni Nadine Morano. J'ai fait un lot de trois, d'un coup, un strike. Vous savez, nous les anciens, un de nos plus grands plaisirs, vous le savez, c'est de dire du mal des gens. Nous les vieux, on adore critiquer sur un banc ou ailleurs. Maintenant que je n'y suis plus, au Républicain, croyez-moi, je vais me lâcher.
Bon bah d'accord, alors de quoi on va
Wauquiez
parler?
Wauquiez, tête de
con. Oh, Monsieur Juppé, allons.
Non, pardon, je testais ma nouvelle liberté. Ah, allez-y, d'accord. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, je vous en prie.
Alors, ces cahiers de doléances dans la mairie de Bordeaux, ben, on voudrait savoir...
Morano,
de...
tête de veau.
Monsieur Juppé, ça va?
Oui, pardon, excusez-moi. Non. Alors oui, je teste ma nouvelle liberté, c'est très agréable. Donc les cahiers de doléances, oui, c'est vrai que Bordeaux a été une des villes où les gilets jaunes ont été les plus actifs, vous l'avez noté. Ça ne me surprend pas, les Français, c'est une tradition chez eux, adorent me faire chier. Me casser les couilles, c'est, je crois, après le foot et la pétanque, le loisir préféré des Français. Alors, pour les calmer, je leur ai ouvert des cahiers.
Et alors, il y a quoi comme revendication, déjà, sur ces
écoutez,
cahiers?
Écoutez, il y a de tout, vous savez, on peut les lire ensemble.
Allez-y.
Attendez, alors... regardez là, ici, il y a marqué Juppé va t'acheter des cheveux, Juppé démission. Bon,
au hasard,
on va en prendre une autre. Alors attendez, ici, Juppé casse-toi, sale bourge. Voilà. Bon. Oh là là. Notez, on voit bien que les gilets jaunes participent. Alors, à mort les riches, non au mariage gay, non aux immigrés. Tiens, il a écrit dans mon cahier, Laurent Wauquiez, c'est bizarre. Enfin voilà, heureusement qu'on recueille la quintessence de l'intelligence du peuple. C'est vrai que ça aurait été dommage de s'en passer.
Eh ben oui, comme vous dites. Merci Monsieur Juppé. Thierry Mariani quitte les Républicains. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy rejoint donc le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est un coup dur pour vous, Laurent Wauquiez.
Madame Julie, c'est ça votre question? C'est tout ce que vous trouvez à dire? La France aujourd'hui, tout le monde le voit, est à feu et à sang. Et tout ce que vous demandez, c'est mon opinion sur le départ de M. Mariani. Vous vous rendez compte de l'indécence de votre question? Je vous le dis, méfiez-vous.
Mais enfin, c'est forcément un coup dur pour vous, avouez.
C'est, écoutez, oui, je vais être franc. Mmh. Oui, voir un membre des Républicains partir pour le Rassemblement National. Mmh. Oui, je vous le dis. Ça me choque.
Bah oui, on comprend.
Eh oui, enfin, comment a-t-il pu rejoindre Marine Le Pen, Thierry, oh. Je ne comprends pas. Moi aussi, pourtant, je suis populiste. Moi aussi, je stigmatise les musulmans comme personne à la première occasion. Moi aussi, je suis contre le mariage gay. Alors Thierry, je t'en supplie, reviens. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Marine? Thierry, reviens. J'ai les mêmes idées à la maison.
Oui, bon, ça va. Merci, Monsieur Wauquiez. Bon courage. C'est le début des soldes. Des rabais importants sont constatés. Il y en a même qui commencent.
Oui, tout à fait, Madame Julie.
Ah, tiens, Marine Le Pen, ça vous intéresse, les soldes, vous?
Oh, mais oui, écoutez, vous savez ce que c'est. Hein, ça, c'est toujours un petit truc dont on n'a pas besoin. Mais bon, c'est pas cher, alors on l'achète quand même. Moi, j'ai pris alors un magnifique Mariani. À moins 80%. Oui. Bon, je ne vais pas m'en servir tous les jours, mais c'est toujours sympa d'en avoir un, hein, en plus. J'ai eu un Jean-Paul Garot offert.
Ah oui, tiens, merci Marine Le Pen.
Pour même prier.
On va parler maintenant de la possible candidature d'un philosophe à droite. François-Xavier Bellamy pourrait être tête de liste aux Européennes pour les Républicains. Ce qui fait grincer quelques dents. Nadine Morano, bonjour.
Non mais franchement, on marche sur l'athlète. Un philosophe chez nous à droite. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? Les philosophes du... On connaît les philosophes, monsieur Lagasse. Oui. Je pionce donc je suis. Écoute leur connerie là.
Oui, allez, Nadine Morano, je pense, pas je pionce.
Oui, hein, je pense donc j'y suis. Mais j'ai jamais rien compris leur truc. C'est pas un philosophe qu'on a besoin à droite. C'est un gars qu'on a dans le falzar. C'est un Mariani qui nous prend.
Bon, mais il est passé du côté de Marine Le Pen, lui, alors. C'est fini.
Eh ben voilà, avec leur connerie de philosophie, voilà, on fait fuir les cerveaux. Attention, bientôt, c'est mon cerveau qui va fuir, venez voir. Et là, ce sera une grande perte pour la droite.
Comme vous dites. Merci, Nadine Morano.
Merci.
Une cagnotte Litchi a été ouverte pour, je cite, que Marlène Schiappa ferme sa gueule. Les organisateurs n'ont pas apprécié qu'elle demande la fermeture de la cagnotte en faveur du boxeur Christophe Détinger.
Oui, mais voilà, c'est là où on en est. C'est bien fait pour ta gueule, Marlène. Et vous avez vu, ma chère Julie, ma cagnotte a déjà atteint plus de 1 000 euros. C'est pas rien,
Comment 1 000 euros. Jean-Michel, c'est vous qui êtes à l'origine de cette cagnotte? Vous avez certes déclaré hier que fermer cette cagnotte était une erreur et que vous la souteniez, mais quand même... C'est...
Non, mais Julie, moi je n'en peux plus du comportement du gouvernement à l'égard des gilets jaunes. Cette semaine, j'ai dénoncé l'exil fiscal de Carlos Ghosn aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc? J'ai dénoncé l'égoïsme des patrons, les violences policières. J'ai soutenu la cagnotte pour Christophe le boxeur. Et du coup, je vais vous dire une chose, j'ai même pris ma carte à la France insoumise. Je le dis, Macron démission, je dis bravo Libération, je dis Schiappa, ferme-la.
Oh bah dis donc, je ne reviens pas que vous ayez ouvert cette cagnotte, moi.
Par contre, Jean-Michel... Bonjour.
Bonjour Nicolas Barret, comment ça va?
Ça va Julie, je voulais juste te demander, Jean-Michel,
oui.
T'as ouvert ta cagnotte, c'est bien, mais... Tu vas pas participer à ma cagnotte Litchi pour mon cadeau d'anniversaire? En fait, je voudrais m'acheter un billet de train. Oui,
pour aller où?
Je voulais savoir, un billet de train pour aller à Francfort, pour visiter la bourse de Francfort.
Pour visiter la bourse de Francfort, hein.
C'est joli, Francfort, en janvier.
Mais oui.
Non, mais mon cher Nicolas, je t'aime beaucoup, mais on s'en fout de la bourse de Francfort, Nicolas. C'est un repère de capitaliste intolérable pour l'insoumis que je suis aujourd'hui. Et tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale, antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu sais quoi, Nicolas? Viens, on va brûler la voiture d'un suppôt du capitalisme, la première qu'on trouve là. Tiens, rincelle-la! Il y a marqué « Vive l'économie ! Prends, prends sa saloperie !»
Mais ça va pas, Michel. Mais c'est ma nouvelle voiture. Je m'étais racheté une Fiat Punto. D'occasion pour remplacer la Twingo que les gilets jaunes m'avaient brûlé.
Ah bah oui, c'est vrai qu'on
oh non, ma Fiat Punto. C'est François Langlais qui me l'avait revendu un petit peu.
Ah, François Langlais qui a vendu une voiture à Nicolas Barré.
Bravo Nicolas Canteloup. La revue de presse sur Europe 1, c'est tous les matins à 8h40 avec Julie.
Il est 8h53 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas, mais tout de suite la météo avec notre cher Laurent Cabrol.
Dites-nous tout, mon cher Laurent.
Eh bien, je vais vous dire que la neige est là, mais à des altitudes de 500, 800, entre 500 et 1000 mètres, disons, sur la Loire, la Haute-Loire, sur l'Aveyron, l'Isère, la Saône-et-Loire. Nous avons des chutes de neige sous forme de giboulées qui sont assez présentes en ce moment. D'une manière générale, ce type de temps très hivernal sera le nôtre sur l'Alsace, le Dijonais, le Mâconnais, la Franche-Comté, le Rhône, les Monts du Forêt d'ailleurs, un peu de neige du côté de Saint-Étienne, l'Ardèche aussi, et puis le Piémont pyrénéen, où il neige un peu sur les Pyrénées, pas de la case, mais on est en altitude à 2000 mètres, là nous avons de bonnes chutes de neige en ce moment. Voilà pour le temps hivernal, le temps disons, hivernal, mais dans son côté sympa, la vallée de la Loire, la Bretagne, l'île de France, le centre, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Limousin, le Béarn, la Champagne et les Ardennes, et puis un peu de temps là, dans ces régions, ce sera pratiquement pas de pluie, et simplement de bonnes éclaircies. Et puis un temps relativement humide entre Calais et Le Havre, nous sommes sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. En ce qui concerne maintenant les températures maximales, 0 à Langres, 1 à Épinal, 2 à Nancy, 3 degrés à Nevers et Limoges, 4 à Lyon, 5 à Lille et Cambrai, 6 à Paris, 7 à La Rochelle, 8 à Nantes, 10 à Marseille et nous allons même jusqu'à 13 degrés du côté de Nice et de Montélimar. En ce qui concerne la journée de demain, de la pluie sur la moitié nord et des éclaircies au sud et du vent toujours en Méditerranée, je n'en ai pas parlé mais il sera toujours là. Samedi, couvert, température de saison, du soleil en Méditerranée aussi, mais du vent également. Des pluies, près des frontières de la Manche et près des côtes de la Manche et près des frontières du nord et du nord-est. Bon, ce sont des journées avec le congé de fin de semaine, ça n'annonce pas trop mauvais dans l'ensemble, mais enfin, les températures resteront quand même des températures de saison.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le jeudi 10 janvier, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, le grand débat national à la une de la presse ce matin, le flip du flop, titre Libération, la boîte de Pandore pour le Figaro. La grande concertation populaire souhaitée par Emmanuel Macron doit s'ouvrir dans 5 jours. Mais qui pour la piloter depuis le retrait de Chantal Jouanneau mardi? Réaction du président du Sénat Gérard Larcher, il était au micro d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1.
Le grand débat, ça peut être le pire ou le meilleur. Le départ de Chantal Jouanneau, c'est pas une péripétie. Est-ce qu'on veut un débat organisé? Comment on fait pour qu'il ne soit pas confisqué par des lobbies ou des groupes de pression? Aujourd'hui, ce débat, il faut qu'il ait lieu.
Sans tête.
Mais qu'il faut qu'il ait lieu
avec cette commission sans tête.
De manière responsable et en vérité. Mais une commission sans la présidente pour la présider, c'est quand même un peu compliqué pour un débat de cette importance.
L'autre actualité, c'est cette matinale. Évidemment, dans cette matinale, c'est l'ouverture dans quelques minutes à Bruxelles du procès de Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014 qui avait fait 4 victimes. À 7h45, nous écoutions le témoignage très fort de notre confrère Didier François, grand reporter européen, ex-otage en Syrie. Le djihadiste a été son geôlier pendant 7 mois. On l'écoute.
Quand j'entends dire par les avocats que c'est quelqu'un qui peut être très poli, très urbain, etc., certainement, c'est quelqu'un de malin. Mais moi, je n'oublierai jamais sa capacité de violence. Mehdi Nemmouche s'amusait à nous écraser les ongles, à nous taser avec du matériel électrique. Un des grands jeux qu'ils avaient, c'était de torturer les gens devant la porte de notre cellule. Et le matin, quand ils nous amenaient aux toilettes, il nous arrivait d'avoir des cadavres égorgés devant la porte, de marcher dans leur sang. C'est ça aussi Mehdi Nemmouche. Donc moi, je veux bien qu'on me le présente uniquement comme quelqu'un de stable. Enfin, une maîtrise de la violence de cette nature est quand même relativement dangereuse.
Témoignage digne, sans pathos et qui en dit long quant à Didier François qui a été donc victime enlevée par le djihadiste qui est jugé aujourd'hui à Bruxelles, Mehdi Nemmouche. Est-ce que vous avez arrêté de fumer? En tous les cas, les ventes de paquets de cigarettes sont en baisse en France. En cause, le prix du paquet, bien sûr, de plus en plus dissuasif. Mais pas seulement. Écoutez Isabelle, c'est ce qui l'a poussé à arrêter.
Du coup, j'achetais un peu moins à manger pour pouvoir m'acheter mes cigarettes. Sur les conseils du tabacologue, j'ai ouvert une tirelire et tous les jours, je mets l'équivalent de ce que je fumais en cigarette dans la tirelire. Presque 400 € en 40 jours pour me faire des petits plaisirs au quotidien.
Enfin, pour terminer cet incendie dont on vous parle depuis ce matin, à Toulouse, dans le quartier de la gare Matabio, 20 habitants ont été blessés. Deux sont actuellement en situation d'urgence absolue. Selon la préfecture, l'immeuble n'était pas insalubre. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes du 6-9. Céline D'Acosta, à demain.
À demain.
Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Tout de suite, Wendy Bouchard avec le tour de la question. Ça commence dans quelques secondes et c'est passionnant comme tous les jours.
Merci, on est là avec Julie jusqu'à 11h. Merci.
Europe 1.